L'avenir de la conduite est à portée de main. C'est maintenant ou jamais. Montez à bord d'une Mustang Mach-E. Profitez d'une baisse de prix de 5 à 13 000 $ sur le PDSF. Et jusqu'au 30 avril 2024, obtenez 0,99% à la location et jusqu'à 12 000 $ de rabais gouvernementaux sur les Mach-E 2023 neufs sélectionnés. Faites vite, parce qu'une Mach-E à ce prix-là, c'est du jamais vu. Pour plus de détails, rendez-vous chez votre détaillant Ford ou sur Ford.ca.
Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventures. Et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération.
Soit Jeff Boudreau, mesdames et messieurs, aujourd'hui dans notre podcast.
Comment allez-vous, messieurs?
Très bien toi-même.
Ben, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir.
Hey, tu sais, on rit souvent des émissions de radio que ça commence par un rire, mais là, je peux vous le garantir, c'est un vrai rire.
Ben, c'est ça, l'affaire, c'est qu'on n'entend pas vraiment le thème quand le thème part. Fait qu'il y a des affaires qui se disent par-dessus le thème. On va taire à l'instant pour sauver la réputation de Jeff Boudreau, si réputation il y a.
J'ai jamais eu de réputation.
Hey, on va régler le dossier tout de suite avec.
Je vais mettre, trouver mon spot, là. J'ai appris ça, moi, là, en télé. Là.
Qu'est-ce que tu connais là-dedans, la télé, le théâtre, l'éclairage? Il y a une histoire de SX4, parce que, évidemment, le podcast tourne autour de l'automobile et tout ce qui a des moteurs. Puis, ça plane.
Il nous unit tous.
Tu pattes qui commence l'histoire du SX4? Ah oui,
on peut, mais c'est parce que là, les images sont pas encore arrivées à régie tellement t'es rapide, Richard.
OK.
On voit que t'es un professionnel de l'animation.
Parfait. Donc, Richard, on met en stand-by une histoire du SX4.
C'est fort.
Là.
Voilà. Hein?
Bon.
En bas à droite.
Ben, oui. Moi, je peux vous donner la genèse d'où c'est parti. Vas-y. Parce que c'est encore plus drôle parce qu'il y a une partie que Pat ne connaît pas là-dedans.
Vas-y, mon gars.
Équipé pour rouler, une émission que finalement on a animé ensemble pendant quand même plusieurs années. On a fait 8 ans total d'équipé pour rouler. Mm-hmm. Bien sûr, Jeff était un des pilotes à éviter tout le temps parce qu'il a une sacrée bonne paire de mains. Il conduit super bien, mais en plus, il est agréable comme personne. On aime ça. Richard aussi a participé au challenge. Ouais. Mais à un moment donné, moi, je changeais l'auto. La première auto, c'était un Kia Rio 5 familial, une ancienne auto qui avait fait le Targa Newfoundland que j'avais racheté. Donc, on avait fait la première année, mais c'était pas très rapide. C'était le fun à conduire.
Ouais, c'est vrai qu'elle
était
le fun
quand même.
On
a fait, je pense, 2 ans avec ça, mais c'était pas la plus rapide. Donc, je voulais quelque chose de extrêmement solide, bon frein, carrosserie sécuritaire, d'ailleurs qui a été testée par Pierre Paquin. très sécuritaire la carrosserie. Donc, je cherche un véhicule. Je parle à Martin Gauthier, qui est mon grand chum, qui est à Chicoutimi. Martin, à ce moment-là, travaillait pour le concessionnaire à Chicoutimi. Il dit, écoute, on va faire un deal ensemble. Je te trouve un SX4. Il dit, c'est surprenant, all-wheel drive. Ça va être super le fun comme auto. Finalement, je fais le deal avec Martin, ramasse le fameux SX4 que je bâtis pour l'émission parce que la voiture m'appartenait personnellement. Et là, toi, tu participes au challenge au volant de cette voiture-là.
Oui. Puis je tombe en amour avec ce char-là. Puis écoute, qui l'eût cru? Un SX4 de base. Mais non, il n'y a rien de le fun à conduire un SX4.
Ouais, ça, c'est un Suzuki pour les gens qui le savent.
Oui, Suzuki SX4.
Un petit char de rien.
Sous-compact, hatchback, 4 roues motrices en l'occurrence.
Mais un frame solide comme un Volkswagen, puis une fiabilité à la japonaise.
Ouais, c'est du pur bonheur. Je veux dire, mais t'es agréable à conduire au bout. Tombe en amour avec ce char-là. Je dis, Carl, si jamais tu veux le vendre, je suis preneur. Fait que j'achète la voiture. Puis,
Après que tout le monde l'ait battu,
j'ai continué. Regarde, ça allait bien. Puis c'est drôle parce que ce char-là, en bout de ligne, il n'était même pas legit pour la route.
Ben, il y avait une cage dedans.
Ben, puis t'as pas le droit de conduire avec une cage comme ça. Là,
ben, la loi est un peu floue. Là. Si, techniquement, t'es supposé avoir la ceinture d'origine en lieu et place d'origine fonctionnelle. Tu peux t'attacher quand même avec le harnais. T'es pas supposé enlever le coussin gonflable, mais moi, je l'avais laissé. Moi, dans ma période,
le volant, t'es pas légal.
Je t'avais laissé le volant d'origine si tu voulais être légal.
Ouais, mais
c'est ça. Non, c'est une belle transaction.
Mais sinon, beaucoup de plaisir avec ce char-là. D'ailleurs, mais je me souviens une fois, parce que, ben, quand on va finir l'histoire du SX4, je reviendrai après avec une anecdote du SX4. Fait que moi, je l'ai eu pendant un bout de temps. Je l'ai revendu à Carl, je pense. À qui j'ai revendu?
J'ai surpris.
Tu l'as revendu à moi.
Ouais,
je l'ai revendu à toi.
Ouais, c'est à moi direct.
Ouais.
Ben, moi, m'as appelé pour ça. Je t'ai dit, parle à mon chum Pat.
Et là, pourquoi je l'ai acheté deux fois, moi?
Parce que tu m'as rappelé, t'as dit, man, je suis vraiment en cave d'avoir vendu ça.
C'est ça, je te l'ai acheté à toi, je l'ai vendu. Puis il me l'a revendu, ou toi tu l'as racheté. En tout cas,
moi, je l'ai acheté à la fin de la loupe, ça, c'est sûr.
Hey, moi, qu'un gars dise, mais pourquoi je l'ai acheté deux fois, ça me tue, cette phrase-là.
Mais c'est drôle parce qu'on partage un point commun. Je sais plus, il est rendu où, puis à qui je l'ai vendu. Mais si je pouvais le racheter demain, je le rachèterais, puis je le vendrais plus. Parce que rapport qualité-performance-prix, c'est inégalable sur la planète.
Tu sais que ce char-là a livré de la pizza parce qu'il y a un nouveau propriétaire de l'auto qui m'a contacté puis il livrait de la pizza encore toute lettrée avec le lettrage qu'on avait de l'émission. Puis il m'a dit la pizza devait arriver chaud dans
le
temps.
Mais ça a l'air d'un char, c'était tellement le fun l'hiver, ça n'a aucun bon sens. Là. Sérieusement.
Mais non, c'est l'hiver, l'hiver, c'est en neige. Regarde, tu partais en avant des pick-up.
Tu partais en avant puis t'arrives, tu pouvais le contrebraquer d'avance avant de le casser. Tu contrôlais ça quasiment comme une, je sais pas, là, un char à 100 000, mettons. Là. C'était...
Moi, j'imagine les concessionnaires Suzuki qui nous écoutent présentement qui font comme, hey, c'est la
y
meilleure
pub. Il n'y en a plus.
Non, mais je veux dire, à retraite, là, ceux qui sont à retraite, font c'est la meilleure pub qu'on a jamais eu toute notre vie. Mais on serait peut-être encore en vie aujourd'hui.
Tu ris, mais encore aujourd'hui, ces véhicules-là sont super dispendieux. Là, ouais. Dans le news, c'est fiable, mais c'est pas donné.
Non, c'est
mais
c'est
anecdote.
Quoi,
on n'était pas déjà dans l'anecdote? Là?
Ouais, une autre, on va en avoir tout le long. Carl, à un moment donné, c'est ça, quand il a vu que je tripais sur les bébelles, etc., etc., il m'a proposé d'être teammate avec lui, d'être son coéquipier pour faire de la course. Super Production Challenge.
Oui, oui.
Une série. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, je me servais du SX4 justement pour faire du lapin, pratiquer, m'entraîner. Là. Et à un moment donné, il y a une course à Icar, on est en Super Production Challenge, et là, je cours avec le Mazda 2 en
du,
compact.
Du groupe Vincent à Trois-Rivières.
Et moi, là, il y a... Écoute, la course a été retardée parce que moi, je calculais jouer au théâtre le soir. Fait que là, je vais Christy, moi, faut que je parte à 4. Je peux pas partir plus tard que ça, même à 5 heures, je sais pas trop.
T'avais pas le choix de finir le premier pour arriver à l'heure.
Ouais, fait que là, j'avais averti mon crew. Je vais regarder, dis-moi l'heure, maintenant, m'a sorti. Peu importe où est-ce que je suis rendu dans la course. Fait que là, finalement, il me dit, Jeff, il est 5 heures. OK, parfait, je sors. Là, tout le monde, OK, je vais trop sortir de la track, ça demande pourquoi. Et je m'en allais, puis là, je pars à la course, puis je m'étais rendu à la track avec le SX4. Mais là, j'ai pas eu le temps de me changer. Fait que là, j'ai le One Piece de course, le casque que j'ai enlevé dernière minute, puis je descends, mon gars, c'est à 15. Tu sais, je me suis fait arrêter. Mettons, je me fais arrêter par la police. C'est t'as beau, t'es calice.
C'est un peu dur à justifier.
Je voudrais, je suis acteur.
Mais moi, je joue au théâtre d'été.
Je suis comédien.
Ouais.
C'est pas pendant le temps qu'on joue ensemble, ça, là, toi puis moi, là, parce qu'on a joué 6 ans ensemble au théâtre.
Non, 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 c'était pas celle-là. C'était jouer à Châteauguay.
D'ailleurs, je t'ai donné ton cours de pilotage, Icar, en plus. Fait que. Oui, on a une relation incestueuse avec le sport automobile, les deux.
Oui, on était, il y a deux Mustang là-bas, là, quand tu prends ton cours à Icar. Là. Moi, je suis forcé en arrière comme un malade, lui, il était au téléphone.
Ben, c'est parce qu'on coach avec le radio, tu sais, fait que nous autres, on a une main, tu sais, souvent...
OK, t'es pas passager.
Non, on a un autre véhicule. Moi, j'aime ça beaucoup faire du lead and follow quand tu commences, parce que quand tu commences les premiers tours, ben tu vois les erreurs, puis tu essaies de juste rentrer la trajectoire pour que la personne qui te suit, s'il suit ta trajectoire, ses mouvements de volant vont être de beaucoup simplifiés. Parce que bien des gens pensent qu'en piste, faut que tu tournes le volant au max, puis il faut que l'auto abrase tout le temps, alors qu'en réalité, on est capable de le faire, puis après un petit bout, on se laisse dépasser, puis là, on suit. Puis souvent, les premiers tours, ben, c'est là que quand la personne tombe devant, tu n'as plus ton rabbit en avant, là, c'est... On dit all over the place, là, la ligne change, tout change, puis on corrige, mais tu as une main sur le radio, tu tiens le coude sur le volant des bouts, tu changes de vitesse. Puis...
Mais c'est ça qui est plus difficile, comme tu dis, il faut vraiment que la course est sur le bout des doigts pour sentir la voiture. Moi, j'ai toujours eu un peu de misère avec ça, tu sais. J'étais agressif, je conduis ça un peu comme une moto ou d'autres bébelles, puis des fois,
mais tu consultes pour ton agressivité.
Alors on va couper ce bout-là, OK?
Non, ça, c'est le clip qu'on regarde pour voir.
Oui, je dis, on coupe ce bout-là, on prend comme clip, on publicise la chose.
Jeff, il a joué modeste, là, puis Richard aussi, d'ailleurs, là, deux gars modestes, là, mais vous êtes parmi les deux qui sont pas mal tout le temps rendus dans les finales de la saison. Fait que quand on faisait venir des artistes, tu avais 19 artistes par saison qui essayaient le véhicule, puis à la fin de l'année, on ramenait les 3-4 meilleurs, puis je vous ai vu en finale, les deux. Là.
Ouais.
Oui, bien, moi, je m'aperçois qu'avec l'âge, je suis beaucoup plus peureux qu'avant. Puis moins de pratique aussi, tu sais. Ouais. Dans le temps qu'on faisait équipé pour rouler, on faisait deux shows par semaine, quasiment, à toujours la piste, mais c'est la même piste. Fait que ça te donne une certaine assurance, comme n'importe quoi, là, tu sais. T'as une aisance de plus. Mais à cette heure, écoute, je pousse jamais la machine, ça m'intéresse plus.
Mais ça te manque-tu des fois? D'en rembarquer peut-être une fois par été, exemple, on se ferait de quoi en boys? Juste ça de même, les gars.
Ça de même, si ça t'intéresse. Si tu me poses la question à moi, je vais dire oui. Oui, moi, ça me manque, c'est sûr.
Mais la course, te manque-tu?
Oui.
Ouais?
Ah oui.
Parce que là, vous avez parlé d'une série là, tantôt, c'était quoi?
Ben, dans le fond, la progression d'un pilote quand tu commences, puis surtout quand tu commences comme nous autres, moi j'ai commencé à 19 ans, Jeff devait avoir 62 à peu près.
Mais Jeff a l'air d'avoir 62 depuis qu'il y a 12 ans, là, c'est pas pareil. Il
m'en va tranquillement, moi. Là.
Ça revient.
C'est ça.
Carlo aussi, mais il se cachait.
Je touche le fond, j'en remonte.
Mais dans les faits, quand nous autres, on n'a pas passé par la filière karting, parce que c'est souvent le point d'entrée en sport automobile.
Ouais.
Puis souvent, les jeunes qui viennent du kart, après ça, ils veulent faire de la Formule 1600, puis leur rêve, c'est l'Atlantique.
D'ailleurs, on va recevoir Alex Tagliani. Là, très bientôt, puis Alex, lui, le kart.
Lui il l'a fait pour vrai, là, c'est une machine.
Mais... on a des invités intéressants parfois. On exclut Jeff.
Oui. Mais dans Andrew les Ranger faits, pouvait pas être là.
Puis je fais de la pub pour la série, mais c'est une excellente série. La série SPC, qui est Sport Production Challenge, c'est une série québécoise qui est absolument extraordinaire. C'est, je pense, de très loin la meilleure série pour. Non seulement s'initier, mais être de façon très compétitive en sport automobile. Okay. Il y a plusieurs catégories. Fait que tu as une catégorie que c'est des petites voitures comme des anciens Toyota EcoCup, des Mazda 2, avec des voitures un peu moins performantes, mais tu apprends vraiment le pilotage. Parce que tu peux pas juste faire du drag. Là. Tu dis pas j'ai du moteur, m'a dépassé. Non, c'est de la
finesse. Parce que chaque erreur, ça coûte beaucoup de temps de rattrapage.
C'est extrêmement coûteux. Aussi, parce que c'est une traction. C'est pas une propulsion. Ouais. Hein? C'est pas évident non plus. Là.
C'est un autre monde. Tu as deux autres catégories, touring, super touring, des voitures qui sont plus rapides, plus performantes. Mais moi, je pense que tout le monde par le sport automobile devrait faire exactement ce que Jeff a fait puis commencer dans cette catégorie-là. Si tu t'exprimes bien, si tu es bon là-dedans, si tu es capable d'avoir de la finesse et de la précision, après ça, rajoute du moteur. Le rendu là, c'est facile.
C'est ça, la coupe micro, c'est pas
ça, c'est une autre affaire. Moi, j'ai fait le SPC pendant un an. Ensuite de ça, les microcopes est arrivé.
Coéquipier encore.
On a été teammate aussi là-dessus avec Total Canada.
Ben
Gagnon aussi, t'es avec nous autres.
Ben oui, ben oui.
On a fait ça pendant.
Ça prenait un beau bonhomme. Il y avait deux gars talentueux.
Trois sur le même char. Non.
On séparait les événements de course, mais au Grand Prix Trois-Rivières, Jeff et moi, on a fait chacun une course, puis on a splitté la séance de pratique, ce qui fait que Jeff a fait, mettons, le premier 10 minutes de pratique, rentre des pits, sort de l'auto à la course, j'embarque, je m'attache, pff, on ressort. Donc, c'était...
Mais pourquoi ça? Attends, je sais le comprendre. Vous splittez votre temps de pratique.
C'est parce qu'il y a deux courses, fait qu'on faisait chacun une course.
Ah, OK, pour la même série.
Pour la même série, mais
avec le même genre.
Le temps de pratique est limité.
Je comprends.
Parce que normalement, tu fais pratique, qualif, course. Là, c'est split
quand,
la pratique,
marche,
split la qualif.
D'un pointage, vous avez le droit d'avoir un nombre de pilotes illimité ou quoi?
C'est deux courses différentes, mais il y avait le même véhicule.
Dans la série, je parle. Ben, il n'y a pas de championnat des coureurs.
Je te dirais qu'à ce point-là,
fout,
nous autres, on voulait juste bien se classer et avoir du fun. Faut que c'était pas, on ne se cassait pas le bicycle.
Non, je comprends.
C'est quand l'hôtel, la bouffe, tout est payé puis que tu as juste à mettre ton casque,
on était bien, Christy, sérieux.
On était vraiment bien traités. Total, ils ont été gentlemen avec nous autres.
Puis, Carl, toi, tu considères Jeff comme quel genre de pilote à ce moment-là, quand mettons, dans la coupe micro, là, tu...
Jeff a vraiment des bonnes mains. C'est un gars qui a une belle vision puis il vient directement du monde de la moto. Fait que c'est souvent le cas avec ceux qui ont ridé beaucoup en moto. Si t'es encore en vie puis ça fait 20-30 ans que tu roules en partant, c'est vrai, c'est parce que Jeff c'est un bon rider puis en moto, il faut toujours que tu prévois deux coups à l'avance. Ouais. Ben en sport automobile, c'est la même chose. Fait que Jeff, si ça soit dans l'auto, il voit bien. C'est un pilote agressif quand c'est le temps, intelligent quand c'est le temps, puis vraiment des bonnes mains. C'est sûr que tu n'avais pas 100 ans d'expérience.
Non, mais c'est comme
tombé dans
quoi
des séries extrêmement compétitives. Ce n'était pas des séries faciles.
Mais tu sais, je suis quand même content. Merci des compliments. Mais je suis quand même content parce que j'ai toujours été mid-pack. Tu sais, on était en micro, on était quoi? 30-35 voitures. Ouais, je finissais dans le milieu. Meilleur résultat, j'ai fini 10e. Là, c'est pas... top 10 pour moi. C'était très bon. Ouais. Mais c'était simple, hein, c'est parce que les saisons où on était plus souvent derrière le volant, évidemment qu'on s'améliorait, puis bon, on faisait des séances de pratique, puis ça allait mieux. Mais la première année, on se partageait une voiture à trois. Fait que, je pense que j'ai fait deux courses.
Ouais. J'avais fait le week-end difficile. Inaugural à Tremblant. Ouais. Ça s'était vraiment bien passé. Je pense que j'étais troisième au championnat en sortant du premier week-end. J'étais tout content. Mais là, après ça, quand je suis revenu aux autres courses, je me suis rendu compte que les réguliers de la série, eux autres, ils pratiquent régulièrement. Ils font toutes les courses, ils font toutes les séances, ils font tous les tests D. Là, je suis revenu, j'ai fait « Oh my God, OK, ça va. » C'est pas que la voiture n'est pas vite, mais pour aller vite avec cette auto-là, c'est une science là, pour vraiment aller extraire le maximum. Puis tu peux pas le faire en étant part-time. Fait que Jeff ait roulé mid-pack, c'est impressionnant. Là.
Parmi, souvent, les gars, en F1, on fait comme « Ouais, pas fini sur le podium, mais... » Le gars, il est parmi les 20 meilleurs pilotes au monde, même s'il finira 14, c'est une légende. Fait que toi, tu roules,
roules
mid-pack parmi 30 des meilleurs coureurs au Québec. Puis c'est pas ça ton métier, ben bravo, parce que je pense pas. Ou je pense que je serais last pack en estime, on va te le dire.
Juste d'être là, tu parlais de la F1, juste de faire partie du circuit de la F1, c'est un exploit en soi. Là. C'est pas tout le monde qui peut. Ben on a beau, nous autres, être gérant d'estrade, mais je sais pas si tu. Je sais pas si c'était avec toi d'ailleurs, Jeff. Je suis allé au Centre Bell voir un combat de boxe professionnel. Moi, j'ai fait un peu de sparring, tout ça, mais t'sais, même pas du sparring, de l'entraînement de boxe. Puis des fois, il y avait Joachim Alcine puis d'autres là, professionnels qui étaient à côté dans le ring. Puis je les regardais faire du sparring. Je me disais, hey boy, c'est
faut
comme.
Tu m'en shape, hein?
Puis là, t'en as d'un stand au Centre Bell qui dit, oh ouais, c'est une bonne. Pardon? Tabarnouche, tu durerais pas une seconde et quart dans le ring contre ces gars-là. Qu'est-ce que tu penses? T'es...
Même pas, juste l'entraînement.
Ah, c'est top. J'aurais pas 10 minutes. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est high skills, tout ça, là.
Mais mes amis, c'est son cadeau de 50 ans en passant. Bonjour, Jean-Marc, là. Mais il s'entraînait avec Garcia, qui est un gars du UFC à ce moment-là, pour le plaisir. Puis finalement, pour son cadeau de 50 ans, Jean-Marc, j'aimerais ça, tu sais, faire un round. Garcia a dit, gars, je te taperai pas dans le fouet, je te taperai pas dans le visage. Puis là, mon ami, non, comment? Il dit, regarde, je vais y aller mollo, mais je vais te donner un peu de feeling. Mon ami, il va te donner du feeling. Après 3-4 claques, il a fait, toi, finalement.
Il est masochiste, ton ami, quand même. C'est ça. Il a vu, il était où par rapport à Garcia?
Ben, tu sais, c'est là que tu vois.
Juste
que...
Juste du pouce ce que tu dis, puis après, on viendra au char, mais à un moment donné.
Ouais, on va venir au char, ça nous tente. Okay? C'est notre podcast, t'es notre invité.
À un moment donné, écoute, j'étais chroniqueur sur sucré salé, belle lurette, et Joachim Alcine était champion du monde. Où il allait se battre pour devenir champion du monde, je pense. Ouais. Puis là, maintenant, on fait un topo avec lui, on monte sur le stage, puis là, il me demande de mettre les gants, m'amuser avec, puis il me dit « frappe-moi, je te frapperai pas, je vais t'envoyer un petit coup par rapport, puis
je vais te faire mal. »
Oui, c'est ça. Oui.
Il va te frapper de main.
Fait que là, on prend le segment de quand on parle qui est agressif, puis on dit « frappe-moi, on met ça bout à bout. »
Mais on met pas « je te frapperai pas. »« Frappe-moi. » Bon, OK, revenons aux autos. Alors, gars du lac, toi, t'as-tu toujours été un gars qui aime avoir le cul sur un moteur? D'aussi jeune que tu te rappelles, tu te souviens?
C'est difficile à dire de nos jours, hein, parce qu'avec toutes les histoires d'écologie et tout ça, je vais m'assumer, oui. J'ai été élevé dans un rang, moi. Ben oui, ben écoute, c'est plus défendable, tu comprends? De nos jours, là, de dire que tu aimes ça faire des sports motorisés, ça devient excessivement difficile de défendre ça.
Ben oui, mais là, écoute, on fait un podcast là-dessus.
Ils seraient des ardents défenseurs.
Non, mais tu sais, regarde, moi, je tout ce qui est un moteur, j'aime ça. Bon. Pas compliqué, j'ai été élevé là-dessus, je renierai pas mes racines. Là. J'étais sur le boulevard Saint-Dominique, dans Saint-Dominique, puis j'avais un champ en arrière. Fait que moi, mon trip, c'était de partir en moto. J'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 8 ans avec mon cousin Christian qui avait une ferme. On était deux sur une Mini Trail 50. Après ça, bon ben, j'ai eu des motos. Je suis rendu à 51 à date.
Quand même.
T'sais, fait que évidemment, j'ai pas 51 motos chez moi.
T'aurais le droit, Jeff.
J'aurais le droit, mais je suis pas le Michel Barrette de la moto. Là.
OK, parfait. Je te sens un peu ses breaks parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux des fois qui te. Quand tu dis j'ai eu 51 motos, ben oui, non, non, franchement.
Oui, je suis toujours un peu ses breaks là-dessus.
Pourquoi non?
Parce que je me fais ramasser des fois sur les réseaux sociaux par rapport à la pollution, par rapport aux machines. Tu
mais
tu ne
conduis pas tout en même temps?
Non, je sais bien.
Mais ces gens-là, ils n'ont pas toutes des voitures électriques?
Tu sais, Jeff, le monde qui te ramasse souvent, là, on va se le dire, règle générale, on a toutes des motos, là, on aime ça rouler. Là. une moto, là, quand tu fais 5 litres au 100 km, c'est pas mal ça. Puis tu sais, road trip, on la sort une couple de fois par année. Mais ce monde-là, ils vont tous en Floride ou dans le sud en vacances d'un avion. Là. Ouais. Fait que je m'excuse, mais leur voyage en Floride, c'est comme 122 ans de nos rides de moto. Ouais. Fait que ça m'insulte un peu, moi, me faire picosser. Là,
ben, je trouve qu'il y a des alternatives sociaux. Le fun aussi. Tu vois-tu, comme du motocross, j'en ai fait longtemps, j'ai fait de l'endurocross aussi. Mais je trouve qu'il y a des alternatives le fun qui sortent. Là. Tu peux avoir des motos électriques. Ça, je trouve que pour virailler dans un pit de sable, c'est parfait. Il y a des Sidoux maintenant électriques aussi. C'est un peu le même principe qu'un motocross. Tu virailles autour de chez vous. Mais sinon, arrive-moi pas avec une moto électrique pour faire un voyage comme j'ai fait il y a 2 ans, faire le tour du sud-ouest des États-Unis. Ewan McGregor, il a essayé de le faire avec Charlie Bowman. Je ne sais pas trop c'est quoi, c'est les Harley Davidson de LiveWire.
LiveWire et le
quoi,
flop.
Ont, ben c'est ça, ouais. Ils ont eu des problèmes.
Succès commercial.
Bon. Regarde, ça va venir, mais en ce moment, on n'est pas là encore. Moi, ce n'est pas le genre de véhicule qui m'intéresse pour tout de suite, pour les besoins que j'ai. Mais sinon, écoute, je l'assume. Là.
Oh,
c'est réglé! Non,
surtout que les motos, en plus, favorisent la. Tu sais, je veux dire, qu'il y a moins de circulation. Tu sais, quand t'es en moto, il y a une grosse ville partout dans le monde.
Ben oui.
Les motos sont de plus en plus nombreuses parce que t'es plus bouchonné pendant 3h30. T'arrives en moto.
Stationnement, même affaire aussi.
Ailleurs, à part au Québec, tu peux passer entre les voitures. Puis bon, les gens ont des opinions là-dessus, mais ça reste que t'es moins longtemps immobile à faire de la pollution.
Ouais.
OK, ben là, puisqu'on parle de moto, on va y aller avec ton road trip, ton gros road trip. Puis pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi la genèse de ce road trip-là, ça s'est préparé longtemps d'avance dans ta tête. Là.
Oui, ben comme je te disais tantôt, tu sais, je fais de la moto depuis que je suis tout petit. Puis quand je suis arrivé à l'adolescence, là, j'ai passé mon permis. Puis ça me tentait, moi, de partir, traverser le Canada, puis après ça, faire tout le tour des États-Unis. Oh. Là, je voulais faire ça, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, rencontre une fille, tombe en amour, hein, l'école, le travail, la famille. Fait que j'ai toujours repoussé ce trip-là. Puis ma blonde le savait, elle dit, regarde, tu trouveras le moment de le faire à un moment donné. La pandémie est arrivée. Là, je m'étais gardé ce trip-là pour la cinquantaine. Quand je vais avoir 50 ans, ça va être mon cadeau, je vais le faire. Puis là, elle dit, tu vas à la cinquantaine encore dans 3 ans. Elle dit, si tu sens que tu peux partir avant, elle dit, let's go. Fait que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Fait que je me suis préparé. Puis voilà 2 ans, je suis parti. J'ai fait chipper le bike au Colorado. Puis j'ai fait les BDR. Ça, c'est les Backcountry Discovery Route. C'est c'est tout de la trail.
Wow.
Fait que c'est des sentiers extraordinaires. Fait que c'est des points de vue que différents de ce qu'on voit habituellement. On voit toujours la route 66 ou ces affaires-là.
Ouais.
Là, t'es dans les montagnes, c'était hallucinant. J'ai fait dropper le bike là-bas, j'ai ramassé le bike.
Mais là, t'es tout seul, t'as une équipe d'assistance.
Je voulais être tout seul. Non, moi, je voulais être tout seul. Je voulais faire une espèce de Compostelle à moto. Pour dire que j'avais le goût de me retrouver.
Moins dur, ses genoux.
Moins dur, ses genoux.
C'est encore drôle.
Je voulais faire Compostelle là-bas à moto, mais ça marche un peu. C'est un peu tu croises du monde. Fait que je suis parti là-bas, j'étais tout seul, puis j'ai trouvé ça extraordinaire.
Wow.
Fait que rencontre avec soi-même, rencontre avec les gens là-bas. Tu vois du paysage, je dormais dans le bois n'importe où.
Simon, mais nous, les photos, voir. D'après moi, il y en a là-dessus qui font partie du trip...
Ça se peut.
De Jeff.
Il y a Bonneville.
Ben moi, Bonneville, là, ouais. En même quand j'ai vu ça, sérieusement, okay. C'est comme un trip de petit gars que tout le monde a d'aller. Moi, je me rappelle les records Guinness à Bonneville, que les gens vont sur le lac de sel, rouler 440 km/h. Tout est allé là en moto, entre autres, dans ce périple-là.
Ah, il faisait chaud.
Ben, sûrement,
la c'est ça. Pas de sens. Puis il y avait des gars qui testaient des motos et qui testaient des chars là, quand j'étais là. Fait que ça, c'était assez impressionnant. C'est sûr, c'est de loin le plus beau voyage de moto que j'ai fait.
Puis là, c'est quoi? Tu t'aventures GPS, puis tu t'orientes comme ça?
Ouais, ce que j'avais fait...
C'est balisé comme sentier, là.
C'est balisé.
Jusqu'à un certain point, je pense.
Ouais, pas tout. Je me suis perdu une fois solide. Mais sinon, les BDR, eux autres, justement, tu as des cartes, puis tu as des tracés GPS que tu peux rentrer dans ton GPS. Puis je me fiais beaucoup là-dessus. Mais ça dépend. Des matins, je pouvais me lever, je fais, hop, j'ai le goût d'aller ailleurs. Où je voyais un chemin, puis là, ça me parlait plus, je partais.
Mais c'est ça la beauté aussi de faire un road trip comme ça. Si, ouais. À mon sens, si tout est tellement planifié que tu ne peux plus y aller dans spontanéité parce que tu n'es jamais allé, fait que tu ne sais pas ce qui t'attend, il faut que tu aies de l'inspiration aussi. Si c'est d'aller à gauche qui tente le plus à un certain moment donné, il faut que tu te donnes ce loisir-là. Mais qu'est-ce que tu as appris le plus de toi, de un? Qu'est-ce que tu as appris de plus de la route, la moto dans ce trip-là?
De moi, j'ai appris. Mon Dieu, je sais que j'ai appris. appris que j'étais capable de vivre avec une paire de bobettes, puis deux t-shirts pendant deux mois.
Que tu retournes de bord tous les jours.
Ce que j'ai appris le plus intéressant. Non, il y a une solution à tout dans la vie. T'sais, là-bas, j'arrivais des fois, puis je me retrouvais par rapport à des obstacles, puis je pense que ici au Québec, j'aurais vécu une situation de même, je ne l'aurais sûrement pas abordé de la même façon, j'aurais peut-être paniqué, j'aurais... Bon, t'sais. Là-bas, je sais pas, j'étais comme un peu... J'étais différent, hein. J'étais en dehors de ma tête, j'étais capable de m'observer, puis j'étais toujours en mode solution. Fait que je suis revenu plus calme, ça fait longtemps que tu me connais, là, mais je suis revenu plus calme de là-bas aussi. Quand je te disais que je te parlais de Compostelle, puis aussi l'autre affaire, c'est, regarde, j'ai appris à me connaître un peu. Tu sais, moi, écoute, j'ai été avec ma blonde pendant 31 ans, fait que j'ai jamais été tout seul. Mm-hmm. Puis là-bas, j'étais tout seul. Puis tu sais, moi, je parle anglais comme un biscuit soda, fait que je parlais pas grand monde de soi.
La plupart des gars du lac.
Ouais, c'est ça, tu sais, on vient du lac, on... en tout cas. Fait que je me retrouvais souvent tout seul avec moi-même, puis j'ai appris à vivre avec moi-même.
Y a-t-il un moment jour. Donné où t'as peur ou t'es content ou tu te dis... Christy, j'ai peur de revenir puis que être
de
tout
perdre
seul,
mon français.
Que être tout seul me manque. Tu sais, c'est comme une espèce de, je vais pas dire une drogue, là, mais que tu dis, Christy, là, je vais revenir. M'avoir une famille, là, quand je vais revenir, elle n'est pas disparue. Là, puis là, ben, ils vivent eux autres aussi, il faut qu'ils aient leur espace. Puis...
C'est une fois que t'es une fois que t'es piqué, pour faire quand, une fois que t'as été piqué, là, puis que t'as fait ce genre de voyage-là, de trip-là, tu veux y retourner, tu veux en refaire. T'sais, moi, c'est sûr que là, cet automne, je suis en train de regarder, puis je vais avoir 50 ans cette année, le 2 août. Là. Fait que c'est sûr que là, j'aimerais ça repartir.
Okay.
Je vais me trouver quelque chose, ça va être quoi, je ne sais pas encore. L'Europe me tente beaucoup. Là. Je voulais aller en Islande, faire l'Islande à moto, mais l'Islande, l'automne, c'est froid un peu, mais sinon, c'est ça, peut-être l'Italie, la Corse, je sais pas, ou Thaïlande, carrément.
OK. Ouais. Mais là, dans ce trip-là, ça n'a pas été facile tout le temps. Tu as failli y laisser ta peau. Là.
Ben, laisser ma peau. J'ai toujours.
Comment, non, il va dramatique.
Ah, il va. OK. Ben, j'ai toujours le bouton à 3000 là, sur mon GPS. J'avais un téléphone satellite. Mais tu sais, il est arrivé à quelques reprises. Exemple, c'est parce que je roulais. Le Colorado, je rencontrais des gens. En montagne, il n'y avait pas de problème. Tu sais, on s'en allait en altitude, puis on rencontrait des gens. Mais aussitôt que j'ai descendu dans le Utah, mettons, je suis parti du Colorado le matin, il faisait 8 degrés, puis je suis arrivé dans le Utah à Four Corners, il faisait 37.
Oh. Il manque pas d'eau, là.
Ouais, là, il manque pas d'eau. Fait que, mais dans les trails, il n'y avait personne. Utah, Nevada, Californie, je rencontrais personne.
Tu te rappelles?
Puis les bikers me disaient, on ne fait pas de moto quand tu fais chaud de même, là, tu sais, de la moto-aventure. Fait que de un, tu ne veux pas briser.
Ouais.
Et de deux, parce que là où j'ai la chienne à un moment donné, c'est que je suis parti, j'étais dans le Utah, je m'en allais à Moab. Fait que là, j'embarque dans la BDR, et là, il y a toujours des chicken pass dans la BDR. Ouais. Mais moi, j'avais toujours pris les experts, ça allait bien. T'sais.
Les chicken pass?
Oui.
Comme en vélo de montagne, tu sais.
Oui.
Tu fais de la descente, c'est trop impressionnant, bien, il y a toujours une voie de contournement que tu peux emprunter.
Plus facile.
Plus facile, sécurisante, sécuritaire, mettons.
C'est ça. Mais moi, je prenais toujours les plus rough. Ça avait bien été. Je l'avais fait au Colorado, puis somme toute, je vais être correct. Mais là, dans le Utah, je m'étais fait dire, il y a une section qui est plus tough. Watch to Wave. Fait que là, moi, finalement, je parle à Jocelyn Snow, c'est-à-dire qui est l'ambassadrice des BDR. Elle dit, t'as-tu un téléphone satellite? T'as-tu bien de l'eau? Puis une tente pour coucher dans la montagne? T'as-tu, je sais pas. Bon, ouais, j'ai tout ça. Elle dit, habituellement, on va pas là tout seul. Fait que là, moi, j'arrive au fameux Y, où là, il faut que je décide, je porte ça à gauche ou à droite. Je suis orgueilleux. Je pars à gauche. J'y vais. Fait que là, je pars, je roule. Puis là, ça va bien. Puis là, je rentre dans la vallée. Puis là, dans la vallée, c'était... Tu voyais que c'était sec. Mais le gars, il y avait un gars qui m'avait dit dans le Colorado, il dit, le problème du Utah, il dit, quand il pleut, c'est de la vase. Tu n'es pas capable de rouler là. Mais là, c'est bien sec. Ah, ça doit être à cause de ça. Facile. Chanceux, c'est sec. Parfait, je roule. Fait que là, maintenant, je vois une espèce de grande côte de sable. Fait que là, je m'enligne. Ah ouais, en haut de la côte, ça va bien. Parfait. C'est peut-être à cause de la côte de sable aussi, cet expert, là, cette bout-là. Continue. Fait que là, j'avance. Puis là, je me rapproche de la montagne. Et là, ça commence à swinguer d'un bon puis de l'autre. OK. Échappe le basic. Enlève le basic. Nope, échappe le basic. Enlève le basic. Là, je fais comme, OK, c'est ce bout-là là, qui est expert. Là. Et là, je roule. Et là, à un moment donné, j'arrive à une place. Écoute, c'est où de même? Ben carré.
Quatre pieds.
Ouais. Là, je fais... Oui, mais je peux pas passer là. Fait que là, j'ai pas de place à nulle part. C'est vraiment là qu'il faut passer. Le genre de bicycle que j'ai, moi, écoute, j'ai le bicycle, les valises, j'en ai pour à peu près 600 livres. Je ne peux pas lever ça. Là, je fais quoi? Fait que là, je peux pas retourner de bord non plus. Je vais manquer de gaz. Oh. Puis là, je check sur mon GPS, puis je fais, Christy, je suis pas capable de voir, j'étais à combien de temps de Moab. Et là, je suis seul. OK, je vais me faire une rampe. Fait que là, je commence à ramasser des cailloux partout.
Oh,
je suis à terre, j'amasse des cailloux, moi, le cave. Je pense pas au serpent. Moi, je pense mon chum crie dans le Utah. Dit, il est très vite mort par un serpent. Fait que là, je finis par, après quoi, une heure et quart, je finis par faire une espèce de petite rampe. Puis là, je dis, OK, je vais monter là. Et là, c'est bien beau de monter à la rampe, mais qu'est-ce qu'il y a l'autre bord?
Aucune
ça
idée.
Ça va être encore comme ça? Je sais pas. Fait que là, finalement, je m'enligne pour monter. Là, j'entends. Pit, 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 pit. Je me vire de bord, deux petits DR 400. Fait que je vais voir les gars. Fait que je commence à jaser avec eux autres.
Fait que là, yes, je, you know.
Je comprends pas trop, tu sais. Fait que là, il fait. Et vous parlez français? Oui! Fait que là, ouais, il parle français. Fait que là, c'était deux Français, un gars de qui reste en Saskatchewan, puis l'autre qui reste à Houston, deux chums.
C'est quoi les chances?
C'était donné rendez-vous là pour faire juste une section au Utah. Deux anges, cette fille. Deux anges, j'arrivais de nulle part. Puis là, ils m'ont dit, toi, tu fais quoi, ici, avec ça? Ouais. Dans cette section-là. Ben, écoute, t'es un peu naïf, là, mais j'essaie de me rendre à moi.
Je le trouvais beau, concessionnaire. Fait que j'ai dit, je vais le prendre.
Il dit, écoute, on a des 400, on a de la misère, nous autres. Fait que, ben, parfait, on le fait ça ensemble. Fait qu'une chance qu'on était là. Parce qu'à plusieurs reprises, la moto, a fallu la lever. Puis on passait des murs puis des cailloux ensemble.
Fallait trois.
Ce que moi, j'avais évalué à 2h15, ça a pris 6h15.
Oh boy!
Ouais. Fait que, c'est ça, tout seul, j'aurais pesé probablement sur le piton à 3000 parce qu'il passait personne. Il passait personne depuis deux semaines, tu sais.
Ça a pas
de sens. Un autre shot aussi, je me suis ramassé. Michel Barrette, il me dit, hey, passe par tel chemin, il fallait chercher à 66, puis tout. Fait que, parfait. Mais ça faisait comme une semaine que j'avais pas fait de trail. Puis là, je sors, puis je me fie sur Michel. Puis là, maintenant, je vois un chemin à droite. Je fais comme, oh, ça a l'air cool. Fait que je vais aller voir un peu. Ouais. Je check sur mon GPS. Ça a l'air de donner là-bas. Il n'y a pas de chemin, mais ça a l'air de... Il y a sûrement une sortie. Fait que j'embarque là-dedans. Puis là, c'est super large. Puis ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Puis là, un moment donné, je suis dans le sable. Mais vraiment dans le sel. Là-bas, là, c'est comme... Écoute, c'est du sel.
Du sel!
Ou quasiment au genou. Là, puis là, t'embarques avec le bicycle là-dedans. Puis d'habitude, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu donnes du gaz. Puis tu flottes là-dessus. Mais je suis pas capable de sortir puis de flotter.
Trop pesant.
Je suis trop pesant. Écoute, un lazy boy, il essaie de faire flotter un lazy boy. Là. Fait que là, j'essaie, ça marche pas. Puis là, il fait 39 à peu près. Puis moi, niaiseux, j'avais toujours la même routine, mais je l'ai pas faite. J'ai oublié d'aller gazer, encore une fois.
Oh non.
Puis j'ai pas pris d'eau.
Hey boy!
Fait que je suis parti avec un fond de gourde, à peu près pas de gaz.
Mais voyons donc.
Ouais. Là, à un moment donné, j'ai arrêté. Là. Puis là, j'avais chaud. Tu peux pas te cacher, t'as pas d'arbre, t'es dans le désert, y a rien. J'avais le goût de broyer. Là, j'avais vraiment le goût de broyer. Là, je me suis vraiment parlé. J'ai fait, OK, là, t'as le choix. Tu peux sur le piton. T'en as un cave. Non. tu peux sur le piton ou rassemble toutes tes énergies, toutes tes skills, tout ce que t'as appris à moto, là, puis sors-toi d'ici. C'était rendu, je parlais à ma moto comme si c'était un cheval. Là,
Retournes le bike de bord, puis tu t'en reviens sur tes
pas. Non, j'avais pas le choix.
Tu finis le chemin quand même?
J'ai fini.
Wow.
Ouais, je me suis rendu au bout. J'ai sorti... Puis ça donnait pas loin de la 66. Là.
De toute façon, si tu pèses sur le piton, c'est pas un piton de téléportation. Là. C'est pas genre
non,
instantané.
Non, exactement. L'autre affaire, c'est long. Là, ça arrive pas tout de suite, cette affaire-là.
C'est quoi ça? C'est un piton de...
Ben, c'est l'air médique, mettons.
SOS,
genre,
GPS, ouais, OK. Ça. Puis ça coûte cher
avant de partir là, pour rassurer tout le monde. Là,
OK. Puis ça coûte cher.
Ben, quand ils viennent te chercher, c'est l'hélicoptère puis tout.
Oh boy, OK, ouais.
Puis là, ils font quoi avec le bike quand ils arrivent en hélicoptère?
Man, je sais pas.
Parce que normalement, ils rescuent la personne. Ils rescuent,
ouais, mais je pense qu'il y a une remorque CA, qui des suivre, je sais pas, là. Je sais pas comment est-ce qu'il aurait été le chercher, là, mais...
Après moi, ça aurait coûté un bike.
Ouais.
L'utilisation du piton était autant préparée que la gourde d'eau et le sens. Pareil.
Mais tu sais quoi? Ces deux journées-là où j'ai eu le plus la chienne, c'est mes deux plus belles journées.
Ouais, les deux plus beaux.
On est mal fait. Hein?
Mais tout est bien fait pour faire le rodage d'une moto neuve. Parce que je me rappelle d'une histoire que tu avais acheté ta première BMW, je pense que c'était un GS, ça se peut-tu?
Puis j'ai échappé dans le Tennessee.
Ouais. Ça va à peine, tu comptes ça.
Ah, c'est parce que dans le Tennessee, on allait pendant trois ans, se louer un chalet dans un endroit qui s'appelle Tellico Plain. C'est vraiment, c'est quoi, c'est gros comme rien. Je pense qu'il y a 12 habitants, là. Puis on allait se promener dans les trails de Jeep puis les trails de chevaux. Tu as le droit de rouler n'importe où. Puis l'année d'avant, j'étais allé là avec un KTM qui était vraiment monté plus comme un motocross. Puis ça allait bien. Puis l'année d'après, j'avais acheté un F800 GS. Puis on refait la même trail. Mais maintenant, il y a un endroit, je te le dis, c'est large même. Puis c'est en pente comme ça. Fait que là, il faut que tu débarques la moto, tu penches la moto, tu passes la moto au gaz un peu tranquillement là-dessus, puis tu continues. Et là, moi, j'avais fait l'année d'avant avec le KTM, ça avait super bien été. Là, le F800, il est flambant neuf. Je l'ai pris, je l'ai ramassé chez le concessionnaire flambant neuf. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait faire le changement d'huile. Je l'ai rodé en descendant, tu sais. Puis on s'en va dans ce trail-là. Puis à un moment donné, rendu là, le bicycle, il se met à partir demain. Je fais, oh fuck. T'es là, il pèse rien, mais là, il commence à être pesant, il commence à être pesant. Puis là, finalement, il est parti.
Flambant la pièce.
Il est flambant, c'est un arbre, puis il l'a arrêté. Si j'avais pas eu Francis Vachon, un ami qu'on a qui est fort comme un ours, il serait encore là, le bike. Là.
Vous l'avez sorti de là?
Ouais. On l'a remonté.
Francis, il a dit, si ça coûte rien, je vais t'aider.
Ouais.
Oui, t'as du pas d'argent, on le salue.
Ouais, mais tu me charges. Ouais, mais c'est ça, non, il y en a eu plein.
Si on revient à ton road trip, t'as pas eu les nuits, c'était-tu le fun? Je veux dire, tu couchais, j'ai cru comprendre que t'as couché souvent dans des... Je peux pas dire motel, ça semble être plus brun que motel, l'appellation.
Une sorte d'affaire.
Mais aussi, sous ta tente, t'as pas eu le wildlife.
La tente, j'ai couché une couple de fois, mais il y a une fois, j'ai vraiment eu la chienne. Parce que moi, j'ai Guy Saint-Mars, qui est un de mes chums du lac Saint-Jean, avec qui que je connais depuis que je suis tout petit. Lui, il reste dans le Utah. Puis Guy, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu en y allant. J'étais arrêté à une maison à Salt Lake City, puis en revenant dans le sud du Utah. Puis en revenant, ça, je disais, genre, mais j'ai fait de l'affaire, j'ai couché là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il était fou, de Gris. Il dit, il y a des pumas partout. Il dit les pumas,
oh,
souvent.
On pense aux serpents, mais pas à ça.
Ben oui. Il dit les pumas, il dit souvent, écoute, il me montrait plein de vidéos qui sautaient sur le monde. Merci. Fait que là, finalement, moi, je reste là, puis là, je repars, puis en m'en allant, je m'en allais vers le Wyoming. Vers le Wyoming. Puis là, dans le Wyoming, ben, je roulais. Puis juste avant d'arriver au Wyoming, c'est-à-dire, je roulais. Puis là, belle rivière, super beau spot. Ah, j'ai dû coucher cette soir, je vais me trouver. Puis là, je rentre dans le bois, puis je me trouve un espace. Je me fais un feu. Puis, tu sais, c'est super cool. Je mange mes poches, je le mangeais pas mangeable. Là. Puis, fait que là, venez, la nuit tombe. Puis quand tu fais du camping, quand la nuit tombe, c'est comme si c'est des murs qui se referment sur toi. Hein.
OK.
Puis là, là, je commence à penser à son histoire depuis moi. Là, j'ai comme, là, je ne pensais pas à ça. Là. Fait que là, finalement, je vais me coucher. Je me couche.
Le feu comme faux avant d'aller te coucher.
Ouais, mais là, je me couche. Puis là, tu entends toutes les cristis de bruit. Là. Puis là, j'arrête pas de penser au puma. J'arrête pas de penser au... Là, je pogne mon couteau. Je mets mon couteau autour de mon oreiller, ma hache. Là, je dors. Je dors de ma main. Puis là, j'arrête pas d'entendre des bruits encore. Je fais, ah, oh, de la merde. Si je vais mourir dans le déni, je me mets des bouchons. Puis là, l'affaire, c'est que j'étais pas équipé. Écoute, ça a descendu, il faisait pas moins 3, il faisait 3 degrés durant la nuit. Puis j'étais pas habillé. J'avais apporté mon petit sleeping bag. J'avais rien de. J'étais habillé. Écoute, en fait, là, j'étais rendu, j'avais mon manteau de moto par-dessus mon slip. J'étais habillé en dessous. J'étais gelé à goutte au nez. Puis là, maintenant, pendant la nuit, j'ai fait, hey, là, fuck, là, je me réveille, lampe frontale, j'ai dépiqué à tendre, puis je suis parti. Genre à 4h du matin. Mais,
tant qu'à geler, je vais geler en faisant de la moto.
Ouais. Ben, je vais descendre la montagne, tu sais.
Ah, oh, ouais, ouais.
Surtout que tu descends de la montagne, c'est correct, là.
OK, OK. Wow.
Puis c'est que j'ai pas dormi. Puis le lendemain, moi, j'ai été suivi par la presse. Il y avait Pierre-Marc Durivage de la presse. Il a fait des topos sur moi, genre, aux deux semaines. Puis j'avais un topo avec lui. Il fallait que j'y parle. Mais écoute, je m'endormais, mon gars, là. Je me souviens. J'étais arrivé, je dormais dans un stationnement de centre d'achat, à côté sur une lumière de même. Je lui ai dit, OK, il m'appelle dans une heure. J'étais couché de même. J'étais couché dans le stationnement à côté sur le poteau de lumière.
Ouf! Wow!
Ouais. Mais il y a un petit côté, j'aime ça, vivre
bien
un peu.
Bien content que tu es venu au podcast avant de mourir dans ton prochain voyage. Dans ta...
mais c'est ça que j'aime. J'aime ça avoir de la misère un peu.
On parle des changements du Jeff avant-après, mais si, pour tirer un trait, physiquement, mentalement puis spirituellement du Jeff avant un voyage comme ça puis après...
Ben, écoute, on évolue dans ce genre de voyage-là. Là. Moi, déjà, Richard, c'est ça. Moi, je pense que tu prends davantage confiance en toi aussi pour certaines choses. Ça, c'est sûr que ça a changé à ce niveau-là. Comme je te dis, écoute, ça en fait de la psychopop. Là. Moi, j'avais toujours eu besoin de toujours m'entourer de gens tout le temps, tu sais. Puis là, ben, je suis bien tout seul, là.
Tu disais que je voulais me mettre dans la merde, t'as dit ça à un moment donné avant de partir. Pourquoi tu voulais te mettre dans la merde? C'est quoi la quête là-dedans?
D'aller au bout de ses limites. D'aller au bout de ses limites un peu, puis je l'ai fait. J'avais le goût de tester ça. Puis
t'as fait sortir l'instinct de survie.
Juste aux douanes. Je parlais pas anglais. Fait que non!
Je suis pas super. Toi qui es comédien, là, ça pourrait ressembler à quoi? Là?
How are you going?
Parenthèse là-dessus, on a passé Edouane sur un voyage de moto avec Michel Barrette. T'as Jeff, Francis, puis moi, justement, qui sont là. Passer Edouane avec Michel, c'est un enfer. Là.
Ah ouais.
Il jase avec tout le monde, la main après douanier, il compte ses histoires. Long. C'était pas
tu sais, quand ça a dit que c'est Michel qui met le gant pour douanier. Là.
Mais moi, je me rappelle tout le long du voyage avoir Jeff une fois de temps en temps qui fait Mike, juste ta gueule.
Non, mais tu te souviens, il y a un soir, il nous raconte une anecdote.
Ah, c'est long. Surprise.
Puis le lendemain, il repart. La même anecdote. Oh. Michel, c'est le compté hier. Les comptes hier? Ben oui, je l'ai compté hier. Ah oui, mais continue. Michel, Chris, je l'ai compté hier. Non, mais regarde, tu comprends pas, là. Faut que j'aille jusqu'au bout, tu peux pas arrêter. On s'est retapé, on s'est retapé l'anecdote.
Le disque est parti, là. On a pas le choix, là.
Wow. Même chose, là. Ah, disons que le premier soir à Old Orchard, on l'a un peu échappé, là. On avait loué une suite qui était dans le téléphone. On pouvait toute être la gang dans la même chambre. Le lendemain matin, on dit on va rider sur le bord de l'eau, pas vite. On devait rider, on s'était dit avant de partir, là, les gars, on fait pas de niaiserie. On met les casques, le cuir, l'équipement. Première nouvelle, on est tout en t-shirt, pas de casque, pas de gants, pas rien. Mais on roule lentement sur le bord de l'eau parce que c'est pas mal le plus sécuritaire qu'on peut faire. Puis on se retrouve dans un endroit extraordinaire, une espèce de belle plage avec des immenses roches. On est assis là-dessus. Le décor est extraordinaire. Là, on est juste en train de... Tu sais, un moment parfait. Ouais. On dirait que c'est t'entends juste les vagues. Michel, il se plante entre nous autres puis la mer. En tout cas, les gars, on va compter une affaire.
Yeah.
Je me rappelle juste de Jeff. Il se lève la tête et fait « Mike, ta gueule.
» Hey, on reste aux États-Unis. T'as quelque chose toi, pour le Tennessee? T'as effleuré ça tantôt. C'est quoi qui te fait triper là-bas, particulièrement quand tu vas faire, j'imagine, de la moto?
Écoute, Tennessee, ben il y a une chose, on se rejoint un peu là-dessus. On est comme un cowboy dans l'âme, toi puis moi.
Pat aussi.
Toi aussi? Bon.
Yeah, we like the country music.
Fait que ouais, c'est ça, on aime beaucoup la musique country. Fait que pour moi, c'était bien important de passer par le Tennessee pour aller à Nashville.
Oui.
Parce que je rêvais d'aller à Nashville, j'étais jamais allé. Fait que Nashville, je me suis vraiment gardé une semaine à Nashville.
Wow.
Ouais. Fait que j'ai une famille là-bas désormais. Fait que j'ai trippé au bout. Regarde, c'est de la musique partout. Il y a des restos hallucinants aussi. C'est vraiment une belle ville. J'avais eu plein de cues, notre ami Robbie Johnson, qui reste là-bas, le chanteur.
La bière est bonne.
La bière était bonne. Non, sérieux, j'étais tout seul. Fait que moi, je trippais. Là. J'arrivais, mettons, les bars ouvrent à... Mettons, les bands commencent à 11h le matin. Là. À 11h le matin, j'étais là. Puis je me parquais proche du band, puis je regardais les bands, puis je faisais les bars de même. Puis
wow.
C'était vraiment pas, c'était pas une question d'alcool loin de là. C'était vraiment plus, moi, je trippe musique. Fait que...
Ah, c'est fou.
Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à Nashville, tu vas dans un bar où il y a des gens qui font du cover, mettons, des bands qui font du cover. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres.
Ils pourraient tous avoir des carrières internationales.
Ouais, 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 c'est du haut niveau. Là.
Puis c'est drôle là-bas parce qu'il y a une espèce de hiérarchie. T'as le downtown en bas, ville, en bas où il y a tous les bars, et t'as le upper, justement, où là, t'as des gens qui veulent faire carrière, qui sont là, qui vont jouer, t'as trois stools, le genre trois bancs, ils vont avec leur guide, ils vont chanter leurs chansons, t'as des producteurs qui viennent luncher, puis hop, est-ce qu'on va se faire voir? Puis les autres en bas, ben une fois que t'es en bas, tu peux pas remonter en haut.
C'est pas comme si la main, la main mesurait 9 km. Là.
Non, c'est Broadway.
Ouais.
Exact.
Fait que si t'es rendu en bas, tu restes en bas.
Les auteurs-compositeurs avec les interprètes. Puis tu sais, dans ce que tu racontes, les gens qui sont sur les petits stools, eux autres sont là, c'est des auteurs-compositeurs, puis ils disent, OK, bon, cette chanson-là, je l'ai écrite avec pas de côté, puis là, ils jouent leur chanson, mais tu vas pas... faire une tourne de quelqu'un d'autre. Là, si tu fais ça, tu ne retourneras plus jamais dans ces genres de soirées-là. C'est comme tu commets l'irréparable. Là, tu passes pour un parvenu, là, c'est sûr. C'est assez particulier, ouais.
Il y avait un petit bar de même en face de l'hôtel où je demeurais. Là, fait que j'y allais quasiment tous les soirs.
Ouais, c'était quand même.
Il y a une fille que... Bon, moi, j'ai pas mémoire des noms, là, mais il y a une fille que j'ai découvert là-bas.
Dolly Parton.
Shania Twain. Puis, écoute, elle a chanté l'hymne national dans un stade de foot, là, pas plus tard qu'en fin de semaine.
C'est vrai.
De plus en plus connue.
Lainey Wilson?
Non. Okay, je te dirai le nom. C'est un peu plate, là, mais on reviendra. Mais
quel invité de merde.
J'espère que je ne vais pas dire n'importe quoi.
Oui, ben ça, c'est déjà trop tard.
Mais t'es pas mal éduqué dedans.
Mais en termes de là, on parlait du Tennessee. On est encore dans le Tennessee. En termes de route, de décor.
Les routes sont hallucinantes. L'est du Tennessee, ben, c'est là aussi qu'il y a. Le, on parlait tantôt de Tale of the Dragon. Ouais. North Carolina puis Tennessee. Mountain, 311 courbes sur 11 000 ou 300, je me souviens plus, un truc du genre. Ça, c'est une route qui est hallucinante. C'est une route où il y a des gens qui viennent de partout sur la planète pour aller rider cette route-là. J'ai appris aussi dans mon voyage, il y a une autre route. Ça, c'est dans Charlotteville. Ça, c'est en Pennsylvanie. Non, en Virginie. Il y a Back of the Dragon.
Okay.
Fait que Back of the Dragon, semble-t-il que c'est encore plus le fun que Tale of the Dragon parce que c'est plus long.
Puis il y a moins de monde aussi.
Une route à faire incessamment aussi. Là. J'étais censé la faire, mais je n'ai pas pu.
Okay.
On pourrait jumeler ça avec le pit stop chez mon ami Binky Tapscott, la plus grosse collection de 3 roues 4 roues au monde, qui est juste à côté de ça.
Je serais assez d'accord comme prochain road trip. Là.
T'as déjà vu sûrement des photos virales sur Internet d'une collection de 3 roues vintage, parce que c'était mes machines, ou des vieux 4 roues, des années 80-90, dans des hangars de 20 000 pieds carrés, puis on dirait que c'est un montage. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça.
Non, jamais vu.
Ben, c'est pas des montages, c'est la réalité, puis ça appartient à un gars que je connais, à qui j'ai vendu ma propre collection et de qui je me suis approvisionné. Puis quand tu vas là, c'est pas ouvert au public, sauf 3-4 fois par année pour des événements caritatifs. Mais quand tu vas là, je te dis, tu saignes du coin de l'œil automatique.
Et ce gars-là est en Virginie?
Il est en Virginie, absolument, okay. Oui. Il est à Palmyria, en tout cas, bref, juste à côté de Charlottesville.
Combien il peut avoir de 3 roues, là, puis 4 roues?
300-ish, mais toutes des affaires rares, là, tu sais. L'année qu'ils l'ont fait juste en Australie, lui, là, en 88, il y a des Super Red, puis il y a tout ce que tu peux imaginer, il est là. Fait que tous les plus beaux Benchies du monde sont là, c'est mes anciens.
Revenons aux autos. C'est quoi l'histoire de la Volkswagen Rabbit que tu as acheté à Karen Beaulieu?
C'est ça que tu sais ça.
C'est assez précis comme question.
Ouais. Tu sais que la semaine dernière, Luc Poirier nous disait ça aussi. Comment ça fait que vous savez ça, vous autres?
J'étais à l'école à Jonquière, j'étais étudiant, et on sortait sur la Saint-Dominique, la route de la rue des Bords à Jonquière. Et à un moment donné, je reviens le soir, 3h du matin, peu importe, puis je m'en vais à mon appartement. Et là, je marche, et là, à un moment donné, il y a une espèce d'Acadienne bleu poudre qui me suit. Là, je fais comment? Fait que là, je marche. Là, l'Acadienne, elle vient s'installer. Moi, il y avait un terrain de baseball, puis il y avait le bloc où qu'on restait. Puis là, elle s'installe au bout du trottoir. Il n'y a plus de trottoir, puis il n'y a plus de lumière. Puis là, les gars débarquent de la voiture, puis ils vont se mettre en avant comme ça. Se cacher en avant du char de même. Moi, je fais comme un peu. Là. Fait que là, j'arrête, je fais à croire d'attacher mon soulier. Et là, il y en a un qui fait ça pour voir si je m'en viens. Ah, ben, les autres, ils m'attendent. fait que là, je pars à la course, puis je coupe ces terrains. Là, il y a une espèce de fossé. Je marche dans le fossé, tu sais. Je regarde, là, ils sont sur le terrain de base. Youhou, 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 c'est pas vrai. Fait que là, finalement, j'arrive à mon bloc appartement, à la porte en arrière, moi, le cave. Hey!
finger.
Ouais, là, je rentre. Là, je raconte ça à mes chums le lendemain. Puis là, Pat, il me dit, ben, achète-toi un char, là, ça n'a pas de sens. Bon,
tu reviens. C'était ça la solution?
C'était ça la solution.
S'acheter un char.
Ouais.
Okay. Mais pourquoi les gars t'attendaient à faire une embuscade? Hein?
Ouais, je sais
fait?
Pas.
C'est la blonde.
Me voler du cash, ou je ne sais pas. Tu sais, je veux dire. Tout des flots, c'est Jonquière. C'est... Anyway.
Ça a été reconnu, Jonquière, comme une ville
ben
tough.
Oui,
hein,
ben oui.
Ben oui, ben, là. Les motards, là, pas mal
ça
aussi.
Ça brassait, là.
C'était l'endroit au Québec où, per capita, il y avait le plus de bars aussi, là, tu sais.
Oh.
Ah, OK.
Le lendemain, j'appelle, je fais un téléphone. J'appelle Karen Beaulieu. Karen, Pat vient de me dire que ton rabbit est à vendre. Elle dit, ouais, pourquoi? Combien tu vends ça? Ben, c'est beau, là, je vends 900 piastres. C'est beau, tu l'achètes. Ah, mais tu l'as jamais vu. Pas grave. fait que j'ai acheté un char par téléphone que j'avais jamais vu. Je ne connaissais pas l'état ou quoi que ce soit.
Oui.
J'ai adoré cette voiture-là.
Bon. C'était ta première?
Ça a été ma deuxième. Okay, la première, ça a été un Ford F-150-81.
Mon Dieu. Commençait pas avec n'importe quoi.
C'est ça. Ouais.
Bon, c'était le truc à mon père.
Le gaz, c'était pas cher dans ce temps-là.
Il avait donné son truc.
Je veux juste. T'as déjà travaillé au Canadian Tire? Tu vas voir mon lien. moi aussi. Mais j'avais un collègue qui avait une Acadian. Comme tu as parlé tantôt, ouais. Elle n'était pas bleu poudre.
C'est lui qui voulait écrire ça de voler.
Et non, le gars, il avait rajouté Tire à son titre.
Acadian
Tire. Ça m'avait fait beaucoup rire. À ce jour, je la trouve bonne. Il l'avait vraiment écrit, là. Je sais pas si c'était au stylo feutre, je sais pas de quoi, mais ça me faisait rire de lire Acadian Tire. En tout cas, OK. Parlons encore de voiture. On continue après la Vaux que tu as adorée. Je te sens un petit peu bipolaire au niveau de l'achat de véhicules parce que.
Mais la Vosges, ça peut la Vosges, je me souviens. Une fois, je descendais de Jonquière, j'étais même, on partait le vendredi, mettant après cours, puis jeudi, on sortait tout le temps. Fait que là, le lendemain, t'es dans le char, puis là, tu descends, t'es un peu tout croche, t'es dans ton jour de l'an, puis là, tu roules. Puis là, le rabbit, derrière, se promenait de même tout le temps.
OK.
Mais là, moi, au lieu d'arrêter, puis regarder ce qui se passe, je suis fatigué, goût de vomir. Fait que là, je roule, j'arrive à Robertval, là, j'arrête au garage, okay, premier garage sur le bord. Non, j'avais un estifi de ballon du côté.
Oh!
Du c'était vraiment une question de minutes avant que ça explose.
Oh, wow! Ah oui, la jeunesse, hein?
Ouais. Mon frère, il avait le même feeling que son rabbit, mais lui, la roue était sortie en arrière. Ah. C'était le bearing de roue qui était fini raide. Wow. On était un petit peu cassé à cette époque-là.
Mais c'était tough, ces gens-là. Ça roulait qu'à rien. Aujourd'hui, il y a tellement de sensors, le char il arrête, là, tu sais.
Ouais.
Quasiment, aujourd'hui.
À l'époque, c'est mécanique.
On faisait de la trail avec ça. J'avais un Jetta GL 87. On allait dans le champ avec ça. Se promener dans les labours, tu sais, là. Imagine-toi la bonne idée. Le lendemain, on le prenait sur la route, c'était bien normal.
Ah oui.
La semaine d'après, il n'y avait plus de clutch, pas grave.
Les tâches, c'est un peu le caca de vache.
Ouais. C'est ça qui est le fun des voitures du temps où il était mécanique.
Puis on payait ça 900$. Ça me fait rire que tu dises ça. Je parlais de ça pas plus tard qu'hier, un de mes chums. Ils disent, ouais, ça, c'est dans le temps que j'avais payé le char 300$. Ce qui n'est même pas une mensualité par semaine pour un char à cette heure quasiment. Mmh,
non. Une mensualité par semaine, ça faut le faire. Ça.
Un versement. OK, regarde, merci, Richard. C'est moi qui est en Noël plus jour de l'an. C'est ça qui arrive.
Tu sais qu'on avait réparé la clutch d'un rabbit avec une canette de coke, à un moment donné. On avait un rabbit qu'on faisait du rallye, c'était une vidange absolue, épouvantable. Puis le seal du moteur avait fait couler de l'huile sur la clutch. Là, Christy, non seulement il faut finir l'événement, mais il faut retourner à Québec avec l'auto. Là, ça ne marche plus, notre affaire. Ah ouais, drop deux canettes de coke sur l'embrayage, attends 15-20 minutes, on repart ça. Ça marche! On était capable de s'en retourner à la maison.
Ça enlève l'effet de la l'huile?
Ben, tu sais, le coke, tu mets des scènes noires là, qui datent de 822 ans puis ils viennent shiny. Fait que dis-toi que c'est super bon pour notre estomac, mais ça nettoie.
De mettre du coke pour débloquer les éviers.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Ça marche.
Mais faut-tu mettre un bon 2 litres, là? Ouais. Effectivement, ça fonctionne.
Ouais, ça fait des miracles.
Bon, là, je te disais que je te sens un peu bipolaire dans tes achats de véhicules parce que là, tu sais, j'y vais de mémoire. Là. Je n'ai pas une longue. Je t'ai vu en Jeep beaucoup.
Oui, ouais, quelques Jeep.
Pick-up, voiture électrique, oups, une petite BM.
Une Bolt.
Une Bolt, oui, ouais, c'est ça. Après ça, une BM Station Wagon. Après ça, Porsche Cayman, pick-up. Tu sais, c'est comme pas clair ta ligne de pensée. Mm-hmm. J'aimerais que tu nous en parles maintenant.
J'aime tout.
Tu peux t'étendre.
J'aime tout. J'aime tous les véhicules. J'aime beaucoup les Jeeps. Les Jeeps, j'en ai eu peut-être 5.
Dont un qui a eu une très belle expérience, de ce que je me rappelle.
Lequel?
Il n'y en avait pas un qui avait coûté un peu plus cher que prévu de réparation.
Ben oui. Mieux, ça n'a pas de sens. C'est lui l'histoire. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai plus de Jeep. Puis là, j'aimerais ça m'acheter un Jeep juste pour le fun, pour l'été, puis tout ça. Pas le noir là, que j'avais. Là. Maintenant, j'en avais acheté un autre, un 94. Bleu. Je trouve ça à Rodden. Je ne donnerai pas trop d'informations.
Non, je me rappelle. Ouais.
Fait que là, j'arrive. Je n'ai déjà trop dit.
Fait que j'arrive chez Jacques Rougeau.
T'aurais pas dû dire la ville.
C'est aussi dangereux que l'histoire de la clé.
J'arrive là-bas, puis écoute, le gars, c'était un camp en bois rond, dans moire à glace. De tough. Fait que je me majoise avec. Il est super sympathique. Le gars me reconnaît. Fait qu'on parle sur l'affaire. Fait que là, il vendait ça 6 000$. Il avait de la job à faire un peu dessus, mais tu sais, il était sûr, il était moins beau en vrai que sur les photos. Mais là, on jase. On s'entend finalement pour 5 000$. OK. Ben là, il dit, regarde, il dit, on va aller plaquer, puis après ça, on passera. Tu me paieras après.
Et toi, t'es persuadé que t'es un fin négociateur à ce moment-là?
Non, mais attends. Fait que là, il me donne, il me charge 5 000$. Là, on part, là, on jase. Puis là, finalement, il dit, ah, écoute, il dit, donnera 4 000$. le gars, il se dropait.
Il se dropait parce qu'il se trouvait smart.
Ouais, il se trouvait smart. Là, on parlait, puis tout. Puis là, on est assis au bureau de la salle. Puis là, ben, avant de s'en aller là-bas, en fait, juste pour placer le personnage, le gars, c'est un ancien gars de Bessic. On va le dire de même. Ouais, et la veste était en arrière. Il m'a montré la veste, mais tu sais, j'en fais plus, puis tout ça. Puis lui, c'était un solide pour l'organisation, mettons, à l'époque. Fait que là, c'est parfait. Il parle de toutes sortes d'affaires. Puis là, on était à sac. Et là, vu que je suis dans le milieu des médias, puis tout, là, il dit, là, écoute, il dit, là, toi, là, il y a une maison qui brise, le Jeep, là. Il dit, tu n'iras pas nommer mon nom, là. Je veux dire, tu n'iras pas dire que je t'ai fourré, là. Là, je commence à comprendre que, OK, ouais. Il est tout en train de me fourrer solide.
Et il est en train de te le dire.
Ouais, il est en train de me dire, je suis en train de te fourrer de 4000 piastres. Mais là, moi.
Trop mal pour dire, je le prends
ouais,
plus.
Trop mal pour dire, je le prends pas. Il dit, qu'est-ce que tu me péter les jambes? Fait que là, comme, OK, c'est correct. Donc, j'ai acheté ce Jeep-là. Et non, j'ai remis de l'argent dedans. J'ai remis de l'argent dedans, mais.
C'était une catastrophe.
C'était une déchiqueteuse d'argent, cette affaire-là.
Comment est-ce que va, môme? Oh non, excusez, c'est pas ce que ça.
Non.
Fait que, OK, ça, c'était... Eh, hey, mais j'aimerais vous poser la question, Carl et Pat. Vous mmh. autres, votre pire transaction de voiture?
La pire poubelle que t'as achetée?
Ou
moi, il y en a un, puis c'est vraiment pas le plus cher. C'est un de mes amis qui avait acheté un Rabbit 81. Fait qu'on s'entend que c'est même pas un GTI, rien. Il avait acheté ça pour faire de la course sur glace. Une vidange absolue. L'auto n'a plus de plancher du côté gauche. Là. Il est fini. Il avait peinturé ça. Il y avait une petite commandite de Valvoline qui avait donné une ou deux caisses d'huile. Fait qu'il avait peinturé ça au rouleau, les trois couleurs de Valvoline. Finalement, ça ne marche pas sa saison. Fait que là, je sais qu'il y a ça. Je dis, moi, je fais du rallye. J'ai besoin d'une auto. Moi, tu vas l'acheter. Il dit, je peux pas te vendre ça. Ça n'a aucun bon sens. Finalement, j'achète ça 150$. C'était une vidange épouvantable. Puis j'arrive en rallye, puis vu qu'il n'y a pas de plancher, puis des fois, les inspections techniques se faisaient un peu lousse à cette époque-là. J'avais mis un 2x4 dans le plancher pour tenir le banc. Mais là, je regarde, moi, mon père avait des vieux plats de boat, tu sais, des garages, puis c'était pas un patenteux ben, mais il jetait jamais une boat. Fait que j'essaie de trouver de quoi pour fitérailler le banc là-dessus. Finalement, les boats que j'ai, la seule qui fait est trop longue. Fait que je prends mon kit de boxe. Je trouve le box, je pense que c'était 16 mm. Un box qu'on ne sert jamais, c'est un Vaux. Fait que je dis, lui, il ne me servira pas. Je mets ça comme spacer pour être capable de visser. C'était vraiment n'importe quoi. Puis on arrive au rallye avec ça. On était premier overall juste parce que, tu sais, partout ce que le monde freinait, moi, ça me passait sans vivre de sa tête. J'étais premier overall de rallye.
Les gens savaient que tu roulais quoi, puis ils ne voulaient pas passer après toi, tu sais.
Ben, disons que j'avais pas peur de grand chose, heureusement. Mais sur un départ à un moment donné d'un stage, j'ai le gaz au fond, je tasse le pied de sa cloche, flink, la traque de balle lâche, je me retrouve assis en arrière. Fait que finalement, j'ai réussi à finir le stage, on repatente ça. Puis ça a fini, on a pas fini d'une rivière ce rallye-là, mais on était premier. On était mon copilote.
La pêche.
Ben, d'habitude, c'était mon frère qui copilotait. Puis cette fois-là, c'était un de mes amis qui était super fin. Puis pendant le rallye, au début, on a dit, on pensait d'être dernier, mais on s'était dit, on va être dernier, mais on va rire en temps. Mais là, tout le monde nous dit qu'on est premier. Le monde commence à nous dire qu'ils ont gagé sur nous autres. Puis là, à un moment donné, au lieu de tenir son livre de copilote pour me dire où il faut tourner, il y a le livre ses genoux, puis go, go, go! Puis là, il se peut plus. Fait que finalement, c'était un long, long, long virage vers la gauche. Fait que moi, je le prends sur le bord du bois, puis je regarde la grosseur des arbres, tu sais, pour faire un rayon le plus droit possible. Fait qu'on est sur le bord du bois, puis je m'en vais vers ce qui ressemble à être l'apex, là, le coin de vers l'intérieur du virage. Je traverse le chemin. Comme j'arrive à l'apex, c'est un 90 degrés sur un pont. Oublie ça, ça tourne pas. J'arrive à bras 150, 160. Fait que mes roues droites, essaye de ralentir. Il y avait une pancarte qui donnait une flèche là, vers la droite claire qui dit c'est un 90 degrés. Puis il y avait le bord du pont. On a passé en dessous de la pancarte, on a sauté, puis on a fini dans les roches de la rivière.
Ça, problème dans le bois, des fois. Là. Ouais, tu fais, ça tourne. Ah, Christy, ça tourne encore. Ah ouais,
ça tourne plus. Fait que finalement, t'es-tu correct, Eric? Il reprend le livre, je m'excuse.
Oh, wow.
Mais ça a fini que cette auto-là, pour qu'elle roule, parce que je l'ai roulé pareil, mais la pompe à gaz sautait tout le temps. Fait qu'à la fin, j'avais mis une broche sur le relais de la pompe à essence. Le feu a failli prendre dedans à peu près 8 fois. C'était, ouais, c'est tout qu'un bon achat. Mais en même temps,
mais quand
c'était
même,
aussi
servi.
Bon que mauvais. Ouais.
C'est ça, il t'a servi.
Ah,
ouais,
c'était Pat, toi?
Non, mais c'est parce qu'on va faire du millage là-dessus, mais après ça, je te reviens avec une histoire dessus.
Okay.
Ça me fait rire en crise parce que toi, tu savais ce que tu faisais. Puis moi, chez nous, quand on faisait des passes de même, là, un peu ça acquis, ça avait l'air contrôlé, tu sais. Puis mes chums avaient appelé ça des pattes-passes. Et ceux qui savent, savent. Hein? Des pattes-passes, là, c'est comme, genre, ça, c'est... T'as failli nous tuer, mais t'as tellement l'air d'assurer ce que t'as fait que ça a l'air king un peu, tu sais. Puis là, ben, y a un gars qui vient au chalet à mon chum Pat Simard, puis on est dans le bois, dans le fin fond du monde. Puis le gars, moi, c'est un ami de la gang, tu sais. Puis il dit, moi, je fais du rallye avec mon char. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Je suis un gars super naïf, pas de frères et sœurs. Moi, je crée tout le monde, fait que là, il arrive avec son encore un Jetta vert, tu sais, les verts mint bizarres. Il y a des LED, des lumières LA en avant. Moi, je check pas ses pneus, je check rien là-dessus. Je vois qu'il y a un banc, un banc de course avec une ceinture 5 points là-dedans. Fait qu'il dit, t'embarques-tu? J'embarque, c'est sûr, j'embarque. Des gars de rallye. Toujours rêvé de faire un tour de gars de rallye, moi. Moi, je fais des pas de passe, mais j'ai jamais connu c'était quoi le vrai rallye, tu sais. J'embarque avec, on décolle. Deux virages plus loin, il rentre en tabarnak. Je te le dis, quand on est rentré dans le virage, mais lui, il a pas pensé de faire ce que t'as fait, là. Chou! On a fait un vol plané dans le... Quand on a débarqué du char, d'abord, je ne savais pas pourquoi j'étais pas mort. Aussi. Deuxièmement, on est remonté sur la route, on voyait même pas le toit du char dans le trou, tellement qu'on était profond. Fait que wow. Ça, ça m'a fait penser à ça, ton histoire de rêve. C'est la seule. Ça, c'était pas une patte passe.
Oh, okay.
C'était une Pierrot Marcotte passe.
Okay.
Oh! Oh oui, okay. C'est vrai que...
Ouais.
C'est exactement ça.
C'est okay. le frère de Dave.
Le frère de Dave, ouais, tu sais, okay. Exactement. C'était plus son frère qui avait le talent, mettons, tu sais.
Ouais, Dave, c'est une sale.
On salue Pierrot, je t'aime bien gros encore, pareil. Mais,
c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des petits bombardiers.
Il a vendu son Eltis, là.
Il l'a vendu?
Oui, il a vendu son Eltis. T'es hot, pareil.
Mais tu sais,
je pense que c'est à la mesure de son talent. Tu roules 1, 2 à 80, c'est correct, là. Non, c'est une blague. C'est amical.
Mais le rallye, il faut être malade en question.
Faut être malade.
C'est le plus beau sport.
Une affaire que moi, qu'on a faite de Redneck, nous autres, c'est que, tu sais, le soir, la fin de semaine, avec mon chum Guillaume, on faisait des swaps de moteurs ou peu importe. Moi, j'assistais, j'étais un wingman là-dedans, tu sais. Passe-moi la clé 10, hein, je passe la clé 10. Tiens ça, je tiens ça.
Trouve-moi le box 10.
Il y a un autre chum Phil qui n'a pas trop d'argent. Il y a un petit géométro, c'est son char de famille. Il commence à avoir déjà. Fait que là, les breaks sont finis là-dessus, tu sais. Puis le char, il est pourri, mon homme, mais pourri du plancher en arrière comme il faisait tout. Puis le longeron du côté du chauffeur est mangé total. Fait que là, on fait les breaks. Il est rendu, on a pris ça chez Canadian Tire tantôt, justement, c'est drôle que tu parles de ça. Dans le temps qu'on achetait nos hausses nous-mêmes avec une fraiseuse, puis on fraisait hausse à brique. On est couché dans le garage à mon beau-père dans le temps. Puis là, ben Chris, il est rendu 10h15 le soir, il faut qu'on s'en aille, mais il nous manque de hausse. Fait que là, on est couché en dessous du char. Puis là, mon Guillaume, il sort la tête, puis il regarde, fait le toi, tu le gardais bien longtemps, ce char-là. Non, pourquoi? Ben, Garek, on a pogné à hausse à brique, puis on l'a mis en diagonale, d'en avant, en arrière, en dessous de l'exhaust.
En dessous de l'exhaust.
C'était épouvantable. Je sais pas qui a racheté ce char-là, là, mais ça, c'est infaisable. Mais toutes des niaiseries de même, oui, on en a fait plusieurs, tu sais, mais normalement, ça suit un canal de dérivation, ça va en arrière dans une espèce de petite cavité protectrice, ouais, que ça traverse isolé, le tour. Oui, parce que toute la ligne à brise passe du même bord.
Puis la brique ne se fait pas réchauffer par l'exhaust aussi, ce qui n'est pas l'idée du siècle.
On a passé ça, on a spacé ça avec du feuillard qu'on a vissé dans le plancher du char. Ah, c'était épouvantable.
Ouais. Wow!
Ouais. On a fait une coupe.
C'est impressionnant d'ingéniosité, hein? Fait que je sais pas. Ben souvent, on dit que la
aujourd'hui,
le génie
faire ça de
la folie. Je sais plus c'est quel des deux.
Non, c'est pas de génie.
Mais tu m'as pas parlé de ta pire transaction.
Ma pire transaction? Ben, j'en ai-tu une pire que d'autres? On dirait que moi, je suis mal fait. Hein? Je me rappelle juste des gens gênés, gentils, tu sais. Mais une affaire que j'ai. Mon premier char qu'on a acheté, c'était un des pires parce que j'ai acheté un 300 ZX86. Il était bien beau esthétiquement, mais eux autres, quand il est arrivé, ce qui tient l'essieu arrière, le plancher était tout déchiré. Fait que le char, quand tu l'accélérais vraiment, c'est comme si tu avais l'impression que la roue, elle venait se bender avec l'avant du char, tu sais. Fait que je pouvais pas trop... Les gens disaient, tu sais, « Oh, snappé. »
Je pouvais pas
le snapper, j'aurais perdu la roue puis le char, tu sais. Fait que je faisais comme, « Non, j'ai fait attention, tu sais, j'étais pas mon genre pantoute. Je fais attention, je pouvais pas le peser pantoute. » Un autre shot, on a acheté un Bronco, il me semble un Bronco 2 dans le début. Puis un peu comme tu disais, quand on s'est mis à rouler avec ça, hey, acheter des chars sans les regarder, ça, c'est moi spécialiste, même encore à ce jour. Là, je vois un char sur le net, j'appelle le gars, il a un bon feeling, c'est beau, je te vire 500, je le prends. T'sais, on est émotif, on a fait une trouvaille exceptionnelle. Puis en même temps, c'est une histoire. Puis je te dirais que mon niveau de préparation est à peu près équivalent à celui de tes voyages. Là, j'imagine. Là, pas trop, tu sais. Donc finalement, on achète un Bronco, on pop le hood de ça, ce qui fait office de bouchon pour l'huile, c'est un bouchon de liège à 20.
C'est une bonne idée du papillon.
Ça met la table, tu sais. Fait que là, on roule avec ça, puis on s'en va dans le bois. Première affaire qu'on fait, on met une corde de bois là-dedans, on s'en va au camp pour faire des feux, puis toute la kit. Puis à un moment donné, je roule, puis c'est mou, mais c'est... Tu sais, c'était déjà mou, un Bronco, on s'entend fort dans ce temps-là, la direction d'abord, c'était... Mais là, en arrière, on s'était percé au complet. Puis le gars qui est assis dans le siège défonce carrément le plancher. Je sais pas s'il s'est retrouvé assis sur quoi. Là. Mais Chris, il a baissé d'un étage, je te le garantis. Fait que ça a fini qu'on a mis un. Je pense que c'est de 2x10, 2x12 en dessous de ça. Jack et ça. Puis là, j'ai fait un beau travail de fibre de verre. J'étais spécialiste dans ce temps-là. Faire un faux plancher. On a revendu ça.
Extraordinaire. Toi, t'as acheté un véhicule déjà à Michel Barrette.
La Porsche. La Porsche Cayman. Ouais. Porsche Cayman, était propre, cette Porsche-là. Ça, c'est un regret. Je regrette pas habituellement mes bébelles, là, mais cette Porsche-là, j'aurais jamais dû l'avoir.
Moi, je regrette de ne pas l'avoir su avant toi. Moi,
elle était magnifique.
Elle était parfaite.
Elle était clean. Puis en plus, Michel, il l'avait rentré au garage avant de me la vendre. Écoute, elle sortie de là, elle était nickel. Ah, mais non. Fais-moi pas pleurer.
Dans l'autre bon sens, t'as quand même déjà acheté une vanne contre une tasse.
Une vanne contre une tasse.
Van life.
Contre une tasse.
De District 31.
Hey, je te suis pas.
Il n'y a pas une femme qui t'avait vendu ta van life et avait dit OK, je te la vends ce prix-là, mais.
Ah oh, oui!
Tu rajoutes une tasse de District 31.
Mon Dieu, t'en sais plus qu'à moi sur moi. oui, c'est vrai. Ben oui, j'ai acheté une vanne à un moment donné. Ben, en fait, la vanne, ça, c'était ma blonde qui. T'es souvent. Moi, j'ai des bébelles, toutes sortes d'affaires. J'ai toi, je dis, y a pas quelque chose qui te ferait triper un moment donné, là. Je dis, t'es tout le temps à moi, mes affaires, mes gogos que j'achète. J'ai dit, toi, y a pas une bébelle que t'aimerais. Ah, d'une vanne, j'aimerais ça. Parfait, on va acheter une vanne. Fait qu'on est parti, puis un moment donné, on est débarqué chez une madame, puis elle a trippé sur District 31. Fait qu'on l'avait négocié un peu. Elle a dit, OK, elle a dit, je te fais à ce prix-là, mais elle a dit, je veux une tasse de District. T'en trouves une tasse.
T'en trouves une.
Une caisse, c'est ce que tu veux.
Fait que procès et tournage, la scène où le commandant prend sa tasse et boit, puis là, la tasse.
Mais tu sais que c'est fini, District 31.
Oui,
ah,
oui. Okay,
parfait, mais il y a tellement de monde qui écoute encore ça en rattrapage.
Aucun bon sens. Oui. Ouais. M'en fait parler, moi.
Moi aussi. Il y a plein de monde qui l'écoute. T'as-tu joué là-dedans, toi?
Ben justement, j'étais à ta doublure.
Ben moi, j'en ai fait un épisode comme c'était les autos de police, il fallait qu'ils décollent au fond, puis ça prenait des Precision Driver.
J'étais allé une première de ce parenthèse, j'étais allé une première cette semaine.
Ah,
chez
oui.
Les beaux-parents.
Oui.
Je t'ai vu dans le générique.
Ben oui,
donc j'imagine
fait.
Que la Jaguar, c'était toi qui a conduit
les scènes
à Québec.
De la Jag, c'est moi.
C'est toi, okay.
Fou ce qu'il a fait. Hein?
Oui, t'étais bon.
Ben, c'était le fun, mais la Jag, beaucoup moins bonne. Ça a été honnêtement cauchemardesque pour l'auto. Je l'avais essayé avant le film, puis j'avais dit l'auto, elle fonctionne pas, je suis pas capable d'accélérer. Fait que je savais que j'avais pas mal de stun, puis il y avait dans le scénario au début.
Un V12,
je devais. Ouais, mais.
Vache, endormi et tout free.
Tu sais, quand tu dis, tu essaies de faire un standing burnout, là, tu tiens le frein un peu, puis tu mets du gaz. Tout ce que ça faisait, c'est qu'on entendait les valves pigner en avant. Fait que ça faisait tac, tac, mais il n'y a rien qui se passait, là. Fait que j'ai grimpé pression de pneus non plus. On a mis de l'eau sur les pneus non plus. Fait que là, il a fallu faire avec. Puis il y avait plein de problèmes parce que souvent, on tournait soit avec un wet down où il pleuvait un petit peu.
Ouais.
Ben, il y avait un million de problème électrique, puis les vitres tombaient en buée d'un coup, mais toutes les vitres. Mais j'avais une scène qui était prévue au début. Fallait-je descendre une des rues du Vieux-Québec à pleine vitesse de reculons.
Avec la police en arrière? Là?
Avec la police, ouais. Mais je faisais un reverse 180. Je m'arrêtais collé sur la chaîne de trottoir, puis en tout cas, je ne donnerai pas, je ne sais pas ce qui est dans le film final, mais moi, j'arrive en haut de la côte pour commencer à reculer. Un, j'avais de la misère à me rendre en haut de la côte, puis là, on essayait, puis je vais me rendre. Puis j'arrive à partir, je vois rien. Fait que là, il y avait... un des gars qui s'occupait des voitures qui essayait d'essuyer, puis le disait « Go, mon gars, dépêche, parce que ça va réembuer encore. » Fait déjà que c'était des manœuvres de précision, je voyais rien dans l'auto.
T'as pas vu le vidéo de ça, Richard?
Non.
Cette auto-là, j'aurais mis le feu dedans. Puis en plus,
elle est magnifique.
L'auto est super belle. Puis avant une des shots dangereuses, il dit « Ah, super sacré d'un mur, perte totale, je serais bien content. » Je dis « Dude, peut-être pas toute ma carrière de Precision Driver. » mais on a réussi à faire les scènes. C'est des compagnies qui fournissent les voitures pour le cinéma. D'habitude, les autos vont super bien, mais là, ça a donné que sur ce film-là, l'auto de police, on a eu du trouble, puis le Jag, on a eu du trouble. Fait que c'était une dure journée, puis l'équipe, d'ailleurs, là, c'est les deux réalisateurs hallucinants. Là. T'sais, des gars comme nous autres, là. T'sais, gentils, t'sais, super... C'était un des beaux plateaux que j'ai vu dans ma vie où est-ce que tout le monde s'entraide, tout le monde s'aime. C'était vraiment, vraiment le fun,
écoute,
ce film-là.
Vous irez le voir, le film. Chez les beaux-parents.
Ouais,
chez
les beaux-parents. Semble-t-il, en plus, c'est très drôle.
C'est très bon. C'est drôle ou pas? Oui. Bien écrit, bien ficelé.
Autre carrière, Jeff Boudreau, tu as commencé à suivre des cours de camionneur.
Fait de bon sens.
C'est fait. C'est mon permis.
Bravo, c'est un total.
J'ai pas pris ma classe 1, moi. J'ai pris la classe 3.
Ah, c'est quoi la classe 3?
Classe 1, c'est les grosses vannes, les 53 pieds.
Okay.
après ça, classe 2, c'est les autobus, puis classe 3, c'est les 10 roues.
Frein à l'air, pareil, etc.
Oui, c'est ça, frein à l'air, manuel. Mettons, tu sais, les camions que tu vois là, qui vont charrier du sable, les camions d'excavateur, okay. Ou encore les straight body. Bon. Fait que j'avais le goût de prendre ce cours-là, parce que j'ai des copains qui ont des compagnies d'excavation. Puis des fois, nous autres, ça arrive. Là, on a des semaines, c'est plus tranquille.
Ben
puis,
oui.
Ça, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, quand ça sera plus tranquille, m'a t'appelé. Puis c'est de quoi, je vais aller... Je vais aller conduire ça pour le plaisir. Fait que j'ai vraiment pris ça pour le fun.
Nice.
Puis ça a super bien été la semaine passée. J'ai eu le permis la semaine passée.
Félicitations.
Ouais.
Wow.
C'était comment le ben, où tu apprends quelque chose de nouveau aussi. C'est ça qui est cool. Ouais. Ce qui est cool, c'est de jamais arrêter d'apprendre.
Ouais.
Ça rajoute une corde à ton arc.
Oui, puis ben, c'est ça que j'aime. T'sais,
ça paraît pas.
je me considère assez versatile aussi. Fait que, on a Beamer. Où là, on fait du marketing, de l'entrepreneuriat. Après ça, bon, ben évidemment, ma carrière d'acteur, ça, c'est toujours ça qui est au-dessus de la pyramide, en haut de la pyramide, mais reste que j'aime ça, essayer autre chose. Puis, tu sais, tu me connais un peu, je suis pas capable de rester chez nous à rien faire. T'sais, des fois, tu as des acteurs qui peuvent attendre que le téléphone sonne. Mon agent, c'est ça qu'elle me disait dernièrement. Elle disait, ouais, t'es pas capable d'attendre, attends. Non, j'ai pas de temps à perdre, moi.
Une vie, c'est court.
C'est ça, une vie, c'est court. Faut que ça roule, puis ça faisait des années que j'avais le goût de passer ce permis-là, fait que j'ai ajouté ça, une nouvelle corde à mon arc.
Ça serait cool un jour que ça te serve même pour un tournage.
Ouais.
Ben c'est ça, je me suis dit, t'sais, je l'ai posté sur mes réseaux sociaux, je vais lancer le message un petit peu.
Non, mais c'est ça qu'il faut.
Mais oui, oui, t'sais, j'aimerais ça un jour. Ben d'ailleurs, moi, je rêve d'écrire une télésérie ou un film sur les camionneurs, parce que ça reste... Tu sais, j'ai des chums qui font ça dans la vie. Là. C'est un univers qui est assez spécial.
Puis ce qu'ils voient dans les haltes routières, c'est... eux autres ont des histoires à raconter.
C'est vrai. Oui, ben oui. Ben oui, c'est ça. Je trouverais ça cool de faire d'aborder cet univers-là. Là, tu sais.
Écoute, Jeff, t'as déjà à shape, fait que c'est bien parti.
Ouais. J'ai une bedaine?
C'est pas ça. Attends, on peut creuser ça un peu. Regarde, qu'est-ce que tu veux dire, maintenant? Non, plutôt, on va aller au segment « Entre quatre roues ». Bon, Jeff, entre quatre roues, c'est assez simple. C'est des questions à rafale. Tu n'es pas obligé de te dépêcher pour y répondre. Mais s'il y en a qui te donnent... Il n'y a pas de réponse qui te vient, tu dis juste à passer, tout simplement.
Okay.
Bon?
Tu me regardes. Ah ouais, c'est nouveau concept. J'ai jamais vu ça nulle part.
Non, j'ai dit à toutes les fois. Combien tu as eu de voitures dans ta vie?
Je dirais 12.
Ben, plus que ça.
Ouais, OK, plus.
12, c'est depuis le temps qu'on se connaît. Okay. Bon, OK.
Non, mais j'ai compté mes voitures.
Pour
voiture.
Pas te concentrer, là.
Ah, 20, mettons.
Ta première auto?
Un Ford 150, 80.
Oui, c'est vrai. Ta meilleure auto que tu as eue jusqu'à maintenant?
Ben, la Porsche Cayman.
OK. Ta plus drôle expérience sur la route?
Ma plus drôle expérience sur la route, en France, quand j'ai dormi dans... j'avais dit à ma blonde, regarde, on va dormir à l'hôtel, à soir, on va se gâter, on va manger au resto, on a fini, puis on a dormi dans le char. Fait que...
Tout est full.
Tu sais, un prince charmant.
Ouais.
So, that's what I'm talking about. Chérie, m'a te gâté.
Ouais.
Reste avec moi, m'a te gâté. Ton auto de rêve?
Mon auto de rêve, ce serait une Porsche, encore une fois... une Carrera RS, là.
RS?
Ouais. J'aime conduire des chars allemands.
Outre ton trip de moto, parce que là, on en a parlé à masse, ton plus gros road trip, ton meilleur road trip, ton plus beau.
Ben écoute, c'est niaiseux à dire, mais quand j'étais allé en Floride avec la van, avec ma blonde puis mon garçon, on n'est pas monté d'une shot, on l'a fait en 3 jours. J'ai tellement aimé ça. On dormait justement dans les haltes routières, puis dans les truck stops, puis tout. Puis ça a été un super road trip. On arrêtait partout. J'ai vraiment aimé ça.
Finalement, je comprends bien. Avant ça, en France, quand tu as dormi dans le char, ta blonde n'a pas haï ça. Tellement qu'elle a voulu acheter une van après. Je comprends.
C'est ça.
Ton rapport avec la vitesse?
Ben mon dos, il est trop grand. Il est trop grand, mon rapport avec la vitesse, mais je me calme en vieillissant. Ben oui, parce que, écoute, on a des enfants, là. Puis je veux dire, à un moment donné aussi, il faut juste être logique, là. Faut devenir prudent, puis il faut vieillir aussi. Puis ça, j'aimais ça faire de la course à cause de ça.
Ouais.
Parce qu'on fait, je pouvais passer mon fou sur la track, mais je dis pas que je le fais sur la route, au-delà. Là, je suis pas mal plus tranquille que je l'étais, mais mon rapport avec la vitesse est toujours là. Je le contrôle.
Fait que si vous voyez un 10 roues passer à 140...
Ouais. Non, je le contrôle, je le contrôle.
Sur 5 roues. Ton pire move en voiture?
Mon pire move en voiture? Quand j'étais jeune, avec le pick-up, je sais pas, je peux pas raconter ça. Non, je peux pas raconter. Je vais finir en prison. Je vais finir en prison. Je peux pas raconter ça.
Excellent invité.
Oui, non, mais pire mot. Je t'en raconte un autre. Je te dis pas où, quand, comment. On avait la fâcheuse habitude de voler des chars, nous autres, quand on était plus jeunes.
Ça, c'est la moitié.
Bien repris. Ouais.
C'est normal dans le nord du lac, là.
Ouais. Ce qu'on faisait,
tu le voles toujours à un cousin, des fois?
On partait avec la voiture. On allait se promener en ville. On ramenait la voiture, mais on la parquait pas au même endroit dans la cour. Pas de la même façon.
Juste pour troubler la personne.
Ouais, fait que la personne nous se levait le lendemain. Puis... Hein? Yes, mon char était pas parqué dans la rue. Il était parqué dans la cour.
C'est drôle, ça.
Ouais, mais bon.
Le plus beau char, selon toi?
Plus belle voiture. Mon Dieu. J'aime les pick-up. Fait que je te dirais un vieux Rats. Justement, Michel, il en a acheté un vieux Rats, un vieux Ford. Là. Ça, je trouve ça magnifique quand c'est bien fait. Là. Donc, un vieux Ford.
Un peu de country dans un vieux pick-up, ça, c'est le bonheur. Hein?
Oui.
Ça finit là.
Oui, c'est ça. Là. Je te dirais que...
Avec une Beamer.
Avoir des sous de ça.
Sans alcool.
Avoir des sous, là, ce serait un vieux Ford 4x4 ou un vieux Chevrolet 4x4, là, début des années 80, fin des années 70. Il y en a des maudits beaux, là.
Carré.
Ouais.
OK. Le char le plus laid, selon toi, le plus laid.
Ma mère avait eu une Pinto. Ouais. Quand on était jeune, un Ford Pinto jaune. Mon père avait acheté ça parce qu'il n'avait pas payé cher à l'époque. Ma mère n'a jamais voulu conduire.
Ah!
Il l'a revendu.
Elle était gênée?
Ouais, Ford Pinto, je trouve ça laid.
C'est pas celle-là qui explosait quand tu se faisais rentrer dans le cul? Les Ford Pinto, parce que il y avait cette...
Les Mustangs n'ont pas eu ça au début aussi, parce que le réservoir est en arrière.
Je me rappelle pas si c'est Pinto, mais le monde... La mode des années 70-80, des flame jobs, là, des flammes qui partaient du devant vers l'arrière, les gens les dessinaient de l'arrière vers l'avant là-dessus. C'était très drôle.
Mais c'était une bulle, c'était une espèce de c'était un sou, ouais, c'était une bottine, cette affaire-là, c'était lit.
Intimité en voiture, des anecdotes?
Non.
En plus, ma dernière question.
Il collabore pas du tout, Steve.
Ben, j'ai une vanne. Il y en a eu d'intimité dans la vanne. Mais, comme tout le monde. Mais, tu sais, écoute, j'ai quand même été 31 ans avec la même femme, là, moi. Là.
Fait OK.
C'est pas mal avec elle que j'ai eu de l'intimité dans les voitures. Là.
Parfait. C'est là-dessus que ça va se terminer.
Ben, ça, c'est un peu embêtant. Ben,
ça a commencé en queue de poisson, ça venait en queue de poisson. Merci d'avoir signé notre verre officiel de Trace de Break.
Vous mettez ça où, ces verres-là?
On les jette.
OK, parfait.
On les casse en cours.
On
tire du gun dessus.
Hey, merci, Jeff, de ta venue. C'était bien le fun.
Yes, sir. Merci.
Plaisir, mon cher.
Vraiment un plaisir.
Trace de Break, une présentation des stations Arnois. Faites-le plein d'aventures. Et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération. L'avenir de la conduite est à portée de main. C'est maintenant ou jamais. Montez à bord d'une Mustang Mach-E. Profitez d'une baisse de prix de 5 à 13 000 $ sur le PDSF. Et jusqu'au 30 avril 2024, obtenez 0,99% à la location et jusqu'à 12 000 $ de rabais gouvernementaux sur les Mach-E 2023 neuves sélectionnés. Faites vite, parce qu'une Mach-E à ce prix-là, c'est du jamais vu. Pour plus de détails, rendez-vous chez votre détaillant Ford ou sur Ford.ca.